18h-20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier 18-20 de la semaine. Au menu de ce dimanche, 2 heures d'information, les journaux complets de Fabienne Lemoal et Sophie Tussaud. Ce sera 18 et 19h. Il y aura également du sport avec notamment le choc PSG-OM ce soir. Les médias avec quelqu'un dont la parole est rare dans les médias, Rodolphe Belmer, le président du festival Sérimania, qui démarre ce week-end à Lille dans sa région, mais également le seul français du bord de Netflix. Et on a des dossiers. La première phase, les consultations du grand débat national, se sont terminées avant-hier vendredi. 2 mois d'échange, près d'1,5 million de contributions. Dimitri Courant est chercheur et surtout membre de l'Observatoire des débats. Il a suivi ce week-end une conférence régionale citoyenne qu'il a trouvée passionnante. Il nous dira pourquoi et surtout que vont devenir concrètement, politiquement, toutes ces prises de parole. Tout à fait autre chose, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, est le deuxième homme le plus riche du monde, juste derrière Jeff Bezos. Sa fortune est estimée à 98 milliards de dollars. Et en 2000, il a créé sa fondation à des fins philanthropiques, qui dispose d'une dotation globale de 43 milliards de dollars. Paradoxe, plus Bill Gates donne de l'argent, plus il s'enrichit. Et ses méthodes et ses choix d'investissement posent question. Révélation avec Lionel Astruc qui lui consacre une enquête au vitriol, l'art de la fausse générosité. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. N'hésitez pas à réagir à l'actu de ce dimanche 17 mars avec le hashtag Europe 1 sur Twitter et sur Europe1.fr. 18h. Merci d'être à l'écoute. Bonne fin de week-end. Le journal, Fabienne Lemoal, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Vaste opération nettoyage depuis ce matin sur les Champs-Élysées pour effacer les traces des saccages du 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Au moins 80 enseignes touchées, dont une vingtaine pillées ou victimes de départs de feu, nous serons sur place. Depuis une demi-heure, une réunion de crise a débuté à Matignon alors qu'Emmanuel Macron a demandé hier de nouvelles mesures pour éviter ces violences. Nous verrons aussi pourquoi ces débordements n'ont pas pu être évité. Dans ce journal, la Nouvelle-Zélande qui rend hommage aux victimes de la tuerie de Christchurch. Et puis, des opérations ont débuté pour pomper les nappes d'hydrocarbures du Grand America au large des côtes françaises, malgré des conditions de mer difficiles.
Europe 1. L'heure est à la constatation des dégâts sur les Champs-Élysées.
Des Champs-Élysées, théâtre de violence hier, avec au moins 80 magasins ou restaurants dégradés, dont une vingtaine de magasins pillés ou victimes de départs de feu. Depuis ce matin, les commerçants s'emploient à effacer les traces de ce 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes sur place. Et d'ailleurs, l'activité reprend son cours sur les Champs-Élysées.
Oui, une grande partie des boutiques a rouvert, celles qui n'ont eu que des vitrines fêlées, celles qui n'ont pas été pillées. Elles sont une large majorité, c'est le cas aussi des restaurants et des cafés qui semblent tourner aujourd'hui à plein régime. En plus de la clientèle touristique, ils reçoivent les nombreux badauds venus pour constater les dégâts. Mais évidemment, selon Gérald Barbier, vice-président de la Chambre de commerce de Paris, avec la répétition des violences, la situation devient critique.
C'est entre 30 et 50% de perte de chiffre d'affaires, c'est-à-dire les consommateurs ne viennent plus le samedi à Paris et les touristes ne viennent plus non plus, en grande partie. Des établissements qui ont fermé pour l'instant, on n'en a pas, mais on va en avoir. Il y a des aides qui sont apportées, mais elles ne seront pas suffisantes. Il faut absolument que ça cesse.
Les sols sont entièrement nettoyés, plus de bris de verre, les tags sont effacés peu à peu et des ouvriers découpent des planches en bois pour remplacer les vitrines. José, l'un des vendeurs de journaux de l'avenue, semble lui démuni devant son kiosque intégralement brûlé.
J'ai perdu mon emploi, mais je suis révolté. Et si ce mouvement permet aux gens de nous foutre au chômage, c'était pas ça la solution normalement du mouvement. C'était pour qu'on puisse avoir du travail, qu'on puisse gagner dignement sa vie, pas pour qu'on refoute les gens encore plus sur la paille, tel que moi, quoi, à 45 ans. À un moment donné, il faut faire le tri, là. Il faut que les gilets jaunes se bougent un peu aussi les fesses. Parce qu'ils sont aussi responsables que le gouvernement. Les deux sont responsables.
Quant à la plaque commémorative en mémoire de Xavier Jugelet, le policier tué par un terroriste en 2017, plaque vandalisée hier, elle a été remise en état.
Jean-Sébastien Soldaini en direct des Champs-Élysées à Paris. Alors, dès hier soir, Emmanuel Macron, revenu en urgence à Paris, a promis de prendre des décisions fortes et complémentaires. On y reviendra dans un instant. Une réunion a débuté à Matignon il y a une demi-heure. Mais voyons d'abord avec vous, Pierre de Cossette, comment expliquer ces débordements et cette casse hier sur les Champs? On s'interroge forcément ce soir sur la stratégie des forces de l'ordre. Quel plan avaient les autorités, Pierre ?
Alors, c'était de laisser l'accès aux manifestants aux Champs-Élysées. On a vu ce que ça a donné le 1er décembre lorsqu'il y avait eu filtrage pour y accéder. Les casseurs s'étaient reportés vers l'Arc de Triomphe et les grandes avenues à proximité. Donc, l'idée, cette fois, c'était d'éviter la dispersion des manifestants violents dans le reste de la capitale et notamment qu'ils se mêlent à la Grande Marche pour le climat.
Alors, visiblement, on a sous-estimé le nombre de casseurs potentiels.
Oui, c'est assurément d'un des problèmes. Les services de renseignement tablaient sur 600 à 800 fauteurs de troubles. Ils étaient au moins 1500. Des professionnels, disent les policiers, capables de se fondre dans la masse des manifestants quand il le faut. 10 000 personnes en tout. Sous-estimation du nombre de casseurs, donc, mais certains policiers nous le disent aussi. Nombre de forces mobiles, sans doute lui-même inadapté. Il y avait environ 5 000 policiers et gendarmes hier à Paris, mais beaucoup concentrés sur le bouclage d'un grand périmètre autour de l'Élysée et de la place Beauvau. D'autres sur la marche pour le climat, de sorte qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça pour les Champs-Élysées. Un commissaire dubitatif sur la méthode me disait s'interroger dans tous les cas sur le fait de laisser un si grand espace à disposition sans tenter de créer un moment une nasse pour contenir les casseurs. Le syndicat Alliance lui affirme que les munitions des lanceurs de balles de défense ont été changées avec une portée bien moindre, 7 mètres contre 40, moins de lanceurs aussi. Bref, difficile de sécuriser les lieux. Quant aux interpellations en flagrant délit, ce n'est jamais simple face à des individus très déterminés qui, on l'a vu, sont prêts à se ruer sur un fourgon de gendarmes mobiles ou arracher le casque d'un policier frappé à terre en voulant mettre en fuite des pilleurs d'une joaillerie.
Alors en décembre, il y avait eu des opérations préventives. Est-ce que ça a été le cas aussi cette fois-ci ?
Très difficile de le savoir, mais on se souvient que le 8 décembre, il y avait eu plus de 1000 interpellations en tout, donc beaucoup le matin, très tôt, aux portes de Paris pour participation ou groupement en vue de commettre des violences. Hier, 200 personnes ont été interpellées, c'est beaucoup moins et c'est peut-être aussi là que ça a pêché.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1.
Et puis, depuis une demi-heure, vous l'avez dit, une réunion a donc débuté à Matignon.
Réunion autour du Premier ministre Aurélie Herbeumont, suite évidemment aux déclarations d'Emmanuel Macron hier soir à la cellule de crise du ministère de l'Intérieur.
Oui, le chef de l'État qui a demandé à son gouvernement de travailler sur des mesures fortes et complémentaires pour que les événements d'hier n'adviennent plus. À Beauvau et à Matignon, on travaille sur le sujet depuis ce matin. Et en ce moment, donc, Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nunez sont avec le Premier ministre. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, est également présente. Alors, quelles mesures pourraient sortir de cette réunion ? Difficile à dire. Le gouvernement attend surtout de pouvoir appliquer la loi anti-casseurs. Mais pour ça, il faut attendre le feu vert du Conseil constitutionnel. C'est l'opposition de gauche qui l'a saisi, mais aussi Emmanuel Macron qui voulait rassurer les 50 députés de la majorité qui se sont abstenus sur ce texte. Cette loi permettrait des interdictions préventives de manifester prononcées par les préfets, la création d'un délit de dissimulation du visage dans les manifs, mais aussi des fouilles. Impossible d'utiliser ces outils pour l'instant. Merci les gauchos et les dingos du groupe, peste une députée En Marche. Une de ses collègues suggère donc de travailler sur une modification de la doctrine du maintien de l'ordre, mais on ne sait pas ce que le gouvernement va décider et a priori pas d'annonce officielle à attendre ce soir.
Aurélie Herbeumont, direct du Matignon pour Europe 1. Et à l'instant, on apprend que la commission des lois et la commission des affaires économiques du Sénat ont décidé d'entendre le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, à propos de ces nouveaux actes de violence et de vandalisme à Paris. Ce sera mardi à 16h30.
Europe 1. Les hommages se multiplient en Nouvelle-Zélande deux jours après la tuerie de Christchurch et la famille du tireur vient de sortir de son silence.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h09, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Les cérémonies et les gestes de solidarité se poursuivent pour rendre hommage aux victimes de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande.
Dépôt de fleurs auprès des deux mosquées où les fidèles ont été pris pour cible, plusieurs millions de dollars de dons collectés aussi. Et pour la première fois, les proches du tireur australien qui s'expriment, des proches sous le choc du carnage perpétré par Brenton Terrant Gianbergawi.
Oui, la famille se dit aujourd'hui brisée par ces actes. Et comme la mère et la sœur du terroriste sont toujours placées sous protection policière avec interdiction de communiquer avec leurs proches, c'est l'oncle et la grand-mère qui se sont exprimés à la télé australienne. À 81 ans, Marie Fitzgerald dit avoir découvert que le tireur était son petit-fils en voyant des photos à la télévision.
Nous sommes tous sidérés. Nous ne savons pas quoi penser. C'est tellement difficile d'admettre que quelqu'un dans notre famille puisse faire quelque chose comme ça. Ce n'est qu'à partir du moment où il a voyagé à l'étranger, je pense, que ce garçon a changé. Désormais, tout le monde est effondré, brisé, ce qu'il a fait est irréparable.
Alors la grand-mère évoque rapidement l'adolescence de Brandon Tarrant, passionné par les jeux vidéo et des jeux dans lesquels il aurait appris à tirer. C'est en tout cas ce qu'affirme le tueur dans le document de 74 pages diffusé sur Internet, 9 minutes avant le début de l'attaque. Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, révèle que son cabinet est l'un des destinataires de ce long manifeste. Selon elle, le document a été aussitôt transmis aux services de sécurité, mais il n'y avait aucun lieu ni aucun détail spécifique permettant de réagir immédiatement. Après cette tuerie qui a fait 50 morts, la première ministre a prévu de réunir demain son cabinet pour discuter d'un éventuel durcissement des législations sur les armes.
Jeanne Bergawi, toujours à l'étranger concernant le crash du Boeing 737 MAX 8 de l'Ethiopian Airlines. Les boîtes noires commencent à parler. Selon la ministre éthiopienne des Transports, les premières données de ces boîtes qui sont actuellement expertisées en France auraient montré des similarités avec le crash en octobre d'un appareil du même type appartenant à la compagnie indonésienne Lion Air. On devrait avoir le premier rapport sur ces boîtes noires d'ici un mois, toujours selon cette ministre éthiopienne.
Et c'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci beaucoup Fabienne.
Vous êtes bientôt sur Europe 1, il est 18h12.
La météo, maintenant, c'est avec vous Valérie Darmon. Après ce week-end très contrasté, on va dire ça, comment se présente cette semaine ?
Eh bien, à peu près pareil, Philippe, fraîche en début de semaine, plus printanière à la fin avec l'arrivée du printemps et contrastée côté ciel. Alors demain, lundi, neige à basse altitude sur les frontières de l'Est et des Alpes, un petit peu comme aujourd'hui. Gros vent sur le pourtour méditerranéen, Mistral et Tramontane se lèvent soufflant jusqu'à 90 km/h, nuages partout et plus d'humidité dans l'Est. L'anticyclone va regonfler rapidement, ce qui va permettre au temps calme de s'imposer quasiment partout dès mardi. Et mercredi également, évidemment, selon les régions. Entre mardi et vendredi, donc les après-midi seront bien ensoleillés sur les trois quarts de la France, avec une forte amplitude thermique tout de même entre le froid du matin et des valeurs de saison l'après-midi, puisqu'il fera 12 à 14 au nord et 15 à 16 au sud, en moyenne, au cœur de nos journées.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous, Cyril de la Morinerie.
Bonsoir.
Football, 29e journée de Ligue 1, Bordeaux affronte en ce moment Rennes.
Oui, les Bordelais du nouvel entraîneur portugais Paulo Sousa face au Stade Rennais, tout juste éliminé par Arsenal de la Ligue Europa. On vous retrouve en direct, Jean Berthelot, on en est où ?
Ouais, c'est reparti depuis 7 minutes en seconde période, 0-0 entre Bordeaux et Rennes, avec une première assez séduisante pour Paulo Sousa sur le banc des Girondins. Ces joueurs ont montré beaucoup de disponibilité, mais pour le moment, ils n'ont pas réussi à trouver le cadre de Koubek, le gardien rennais. Côté breton, la première mi-temps a été solide, avec quelques coups à jouer, mais là encore, aucun tir cadré. Et dans ces conditions, difficile d'imaginer autre chose que le 0-0 qui est le score entre Bordeaux et Rennes alors qu'on joue la 53e minute.
Merci Jean Berthelot.
Et puis un peu plus tôt, Lyon a battu Montpellier.
Un succès 3-2 des buts lyonnais de Terrier, Dembélé et Aouar contre des réalisations de Mollet et Camara pour les Montpellierains. Lyon, malgré un pénalty manqué de Fekir, a réalisé une bonne deuxième période et revient à 4 points de la deuxième place occupée par Lille. Et puis le Stade de Reims, c'est toujours la dernière équipe invaincue en Ligue 1 en 2019. Les Rémois ont battu un autre grand club, le FC Nantes, 1-0 avec un but superbe de Rémi Houdin.
Son 9e, le grand match évidemment.
Exact.
Le choc, c'est ce soir, Paris, le PSG accueille l'OM, l'Olympique de Marseille.
Coup d'envoi à 21h à suivre en direct, évidemment en intégralité sur Europe 1. Alors l'info ce soir, c'est la présence de Mario Balotelli à Paris. L'attaquant italien de l'OM qui était malade a pris l'avion ce matin, mais on ne sait toujours pas s'il participera au match. Pourtant, sa présence serait plus qu'utile. Marseille n'a plus gagné depuis 2011 contre le PSG, mais Paris, éliminé de la Ligue des Champions, aura sans doute du mal à penser ses plaies, explique notre consultant à La Roche.
Je crois que ça ne sera pas oublié pour les fans et encore moins pour les joueurs. Moi qui ai vécu des grosses désillusions aussi pendant ma carrière, vous ne pouvez pas oublier ce genre de performance. La Ligue des Champions était l'objectif prioritaire cette saison pour le club et pour les joueurs. C'était au minimum accéder au quart de finale, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, des fois il y a des opportunités qu'il faut saisir, ils ne l'ont pas saisi et je pense que ça va ruminer longtemps dans les têtes.
Et il sait de quoi il parle à Alain Roche puisqu'il a joué à Paris et à Marseille.
Exactement, PSGOM, donc c'est ce soir à 20h. À l'étranger, la Juventus de Turin, eh bien un seul être vous manque et tout change. Le fantastique Cristiano Ronaldo, héros de la qualification en Ligue des Champions, n'était pas à Gênes cet après-midi. Résultat, la Juventus de Turin a perdu 2-0. Sa première défaite de la saison. Morale de l'histoire, Ronaldo est indispensable.
Cyclisme, l'équipe Sky toujours en grande forme.
C'est le Colombien Bernal de l'équipe Sky, en effet, qui remporte le Paris-Nice après un final à suspense dans la baie des Anges. Axel May, vous êtes notre envoyé spécial.
Oui, le public présent ici en nombre sur la promenade des Anges anglais a bien cru à un moment que le scénario des trois dernières années allait se répéter avec un maillot jaune vainqueur pour une poignée de secondes. Il y avait 48 secondes d'écart entre Egan Bernal ce matin et son compatriote et néanmoins principal rival pour remporter ce Paris-Nice, Nairo Quintana. Dans le relief escarpé de l'arrière-pays niçois, Quintana a tenté sa chance et a même compté une bonne quarantaine de secondes d'avance sur Bernal. Ses compagnons d'échappée n'ont pas collaboré. La victoire d'étape est revenue finalement à l'Espagnol Jon Izagirre, tandis que Quintana achève ce Paris-Nice à la deuxième place à 39 secondes de Bernal. 22 ans, hein, Bernal, retenez bien le nom du nouveau prodige de la Sky. Bardet termine 5e et meilleur français.
Enfin, en ski alpin, Clément Noël a été le plus rapide entre les piquets. C'était à Andorre, victoire en slalom.
Biathlon, la France termine ses championnats du monde avec une 4e et dernière médaille.
Oui, avec une médaille d'argent pour Antonin Guigona en main start.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Cyril Lamorinerie. On vous retrouve tout à l'heure, Cyril, à tout à l'heure. C'est le reproche préféré des détracteurs du grand débat, avec des participants plutôt âgés et plutôt aisés. La grande consultation aurait seulement prêché des convaincus. Pas de quoi calmer donc le mouvement des Gilets jaunes, mais voilà que la phase 2 a débuté ce week-end. Des citoyens tirés au sort cette fois doivent prioriser les propositions et tout le monde s'y met. Premières impressions avec celui qui a assisté à la conférence citoyenne en Ile-de-France, Dimitri Courant. Il est membre de l'Observatoire des médias et il est avec nous dans un instant.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h19, vous écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Et maintenant, Philippe Vandel, vous recevez votre premier invité et ça va débattre.
Exactement, la première phase du grand débat national initié par le président Macron pour apporter des réponses à la colère des Gilets jaunes s'est terminée avant-hier vendredi. 2 mois d'échanges sur 4 thèmes, la fiscalité, les dépenses publiques, l'organisation de l'État et les services publics, la transition écologique et la démocratie et la citoyenneté. Selon les organisateurs, 10 405 réunions locales ont été tenues, c'est précis. 16 000 cahiers citoyens collectés, sans compter 1,4 million de contributions enregistrées sur le site dédié. Bonsoir Dimitri Courant.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant et chercheur à Paris 8 et à Lausanne et surtout membre de l'Observatoire des débats. En quoi a consisté votre rôle, votre intérêt autour du grand débat ?
Alors moi, mon rôle, ça a été d'observer, comme le nom l'indique du coup, et d'avoir du coup cette initiative qui a regroupé un certain nombre de chercheurs de l'Observatoire des débats pour avoir une analyse indépendante du gouvernement basée sur des gens qui ont l'habitude d'observer ce genre de processus participatif ou délibératif, comme c'est le cas de nombreux collègues.
Alors vous avez suivi ce week-end la conférence régionale citoyenne d'Île-de-France et vous l'avez trouvée, ce sont vos termes, passionnante. Ça peut surprendre certaines personnes. Pour quelles raisons ? Qu'y avait-il de passionnant ?
Alors c'est vrai que c'est difficile à saisir parfois parce que c'est des gens assis autour de table qui discutent de façon calme, qui ne s'insultent pas, qui ne s'invectivent pas et il n'y a pas de petites phrases choc ou d'effet de manche, donc ça peut sembler ennuyant, mais ce qui est passionnant c'est de voir justement des gens qui sont de milieux sociaux différents et qui n'auraient pas été amenés à se parler autrement et qui là sont amenés à se parler de façon organisée avec un médiateur, de façon politique, pour essayer de faire des propositions, de faire des diagnostics de problèmes, ensuite de proposer des propositions et de voir, voilà, par exemple, à une table, une jeune femme assez aisée du 16e arrondissement discuter à une personne qui vient d'une communauté de gens du voyage qui portait son gilet jaune. C'est quelque chose d'assez intéressant.
Justement, j'allais vous demander ça parce qu'on a dit qu'il y avait un fossé sociologique entre les gilets jaunes et ceux qui ont participé au grand débat, qui étaient plutôt des gens cultivés, CSP+, alors que les précédents, c'était des gens qui se sentaient déclassés, marginalisés, tenus à l'écart.
Absolument, mais en fait ça c'est ce qu'on constate assez souvent dans de nombreux processus participatifs, c'est-à-dire que quand c'est ouvert, viennent une certaine catégorie de personnes qui sont des gens qui ont plutôt des capitaux en termes culturels et sociaux, donc des gens plutôt des retraités, plutôt des hommes, plutôt des gens diplômés et âgés, et donc c'est exactement ce qu'on a dans les réunions d'initiative locale du Grand Débat qui étaient donc ouvertes, où on a une majorité assez importante de propriétaires, de gens diplômés du supérieur, de gens qui ont plus de 50 ans... voilà, donc c'est évidemment pas du tout la sociologie des gilets jaunes et des mobilisations sociales ou de la population française en règle générale. Et ça, bah, c'est le fait que ce sont des gens qui sentent qu'ils ont le droit de parler, qu'ils ont un avis intéressant, qui se sentent sur d'eux, qui se sentent intégrés et qui du coup vont participer.
Mais alors comment est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose ? Je vais prendre un exemple. Si on prend le cas des propriétaires, ce sont des gens qui payent l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, le nouveau nom, la nouvelle résurgence de l'ISF. Or, une des revendications des Gilets jaunes, c'est le retour de l'ISF. Donc ce n'est pas les mêmes qui ont manifesté sur les ronds-points et les mêmes qui discutent.
Absolument.
Donc que va-t-il de sortir de ces confrontations ?
Alors c'est assez intéressant puisque précisément Toute la démarche du grand débat, finalement, elle a été causée par le fait qu'il y avait un mouvement assez important qui est les Gilets jaunes de mobilisation populaire, qui est un mouvement qui regroupe assez largement dans toute la France. Et donc, face à un public qui avait, de façon mobilisée, créé des revendications, par exemple le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, le retour de l'ISF, la suppression du CICE, etc., etc., il fallait créer un autre public, un autre interlocuteur pour pouvoir avoir d'autres potentiellement types de propositions.
Alors il fallait, est-ce que ça s'est fait? Et si oui, comment?
Bah, ça s'est fait, oui, puisqu'il y a eu les réunions d'initiatives locales et donc le but c'était de créer d'autres propositions. Puis aussi,
oui, mais pardonnez-moi, on va pas emmener des gilets jaunes par la force pour venir discuter s'ils n'ont pas envie de venir discuter devant tout le monde.
Je pense que c'était pas le but. Le but et la façon dont le grand débat s'est lancé, c'était pas tellement de faire dialoguer les gilets jaunes avec les autres, c'était de mobiliser un autre type de public pour avoir potentiellement un autre son de cloche et puis constituer finalement un énorme vivier de propositions. C'est pour ça qu'il y avait autant de modalités de participation différentes sur le site internet, localement, beaucoup de conférences beaucoup de conférences régionales tirées au sort, etc. Comme ça, on a un vivier de propositions assez important et puis on peut faire ce qui s'appelle de la sélection ensuite, de l'écoute sélective ou du cherry picking, comme disent les Anglais. On choisit la proposition qui nous dérange le moins ou à laquelle on sent qu'il y a le plus, que ça va passer le plus facilement. Mais finalement, une volonté de discussion directe avec les Gilets jaunes aurait été vraiment au cœur du projet. À ce moment-là, il y aurait eu reprise des 40 ou 42 propositions des Gilets jaunes et on serait parti sur cette base-là pour discuter sur cette base-là, ce qui n'a pas été le cas.
Vous allez me dire si on peut dénouer, selon vous, ce paradoxe. Il y a beaucoup de Français qui ont participé au grand débat, je l'ai dit, presque 1,5 million de contributions, mais dans les sondages, la majorité à ce sujet reste très sceptique. Un sondage Elabe qui a été publié cette semaine, 63% des sondés estiment qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ne tiendront pas compte des points de vue exprimés à l'occasion du grand débat. Que leur répondez-vous ?
Qu'en l'état, on n'a aucune assurance qu'il y aura une prise en compte, ni de quel type de prise en compte on va assister, puisqu'il n'y a pas eu d'engagement clair de l'avenir de ces propositions. Et quand on regarde d'autres dispositifs délibératifs à l'étranger, par exemple en Irlande, moi j'ai travaillé plusieurs années sur les assemblées en Irlande,
ouais.
Le Parlement s'était engagé à discuter de toutes les propositions, mais c'était beaucoup plus précis, dans un délai de quelques mois au Parlement. Donc là, il y avait une connexion assez directe, avec un engagement qui avait été pris, et les assemblées citoyennes, par exemple au Colombie-Britannique, qui est une province du Canada, l'engagement avait été que la proposition de l'assemblée citoyenne tirée au sort serait soumise à référendum et que le gouvernement n'y toucherait pas, elle serait directement soumise à référendum. Là, pour l'instant, on n'a aucun engagement.
Alors, la première phase du grand débat est close. Il y aura désormais 18 conférences citoyennes régionales qui vont être organisées ce week-end et le week-end prochain. Ces conférences vont réunir de 70 à 100 citoyens tirés au sort dans chaque région. Vous avez justement travaillé sur les usages du tirage au sort. Ça paraît éminemment arbitraire. Est-ce qu'au fond, c'est un système juste ?
C'est-à-dire que...
Ça vous fait sourire.
Non, mais c'est-à-dire que c'est finalement non arbitraire, puisqu'il n'y a pas de discrimination. Le tirage au sort est finalement une méthode qui ne discrimine pas. Quand vous allez voter, vous allez peut-être refuser de voter pour une femme parce que vous êtes sexiste, vous allez peut-être refuser de voter pour une personne de couleur parce que vous êtes raciste. Mm-hmm. Ça, c'est arbitraire. En revanche, un tirage au sort, eh bien, lui, étant donné que ce n'est pas un humain, il n'a pas de dimension arbitraire. Ce n'est pas immoral, c'est amoral, et il n'y a pas de discrimination qui apparaisse par là. Après, il faut aussi quand même préciser que c'est pas du tirage au sort sec, on va dire, c'est du tirage au sort où il y a quand même un certain nombre de critères après. Donc on va tirer au sort des viviers de population et ensuite on va s'assurer qu'on a bien certains critères de représentativité, comme par exemple l'âge ou le sexe.
D'un mot, que pensez-vous du RIC, le référendum d'initiative citoyenne? Je veux dire le sens de ma question, puisque vous enseignez notamment à Lausanne, oui. En Suisse, la Suisse qui là-bas pratique la votation et où ça se passe plutôt bien.
Oui, voilà, moi je pense que le modèle suisse est un modèle relativement apaisé, enfin c'est pas non plus parfait parce que la perfection n'existe pas sur Terre.
Est-ce qu'il serait applicable en France ?
Je vois pas pourquoi il ne le serait pas. Je pense que j'ai pas entendu un seul argument convaincant.
Ah, je peux vous en dire un. Les gens n'ont pas envie que le RIC arrive en France parce qu'on n'a pas envie qu'on revienne par exemple sur la peine de mort.
Mais alors voilà, donc la réponse en règle générale à ça, c'est que les Suisses ont légalisé l'interdiction de la peine de mort du coup par référendum 43 ans avant la France. Donc pour moi, il n'y a pas de connexion directe entre peine de mort et référendum. Et puis en fait finalement, la chose la plus intéressante, c'est qu'une culture politique, ça évolue par la pratique. Si jamais vous n'utilisez jamais vos muscles vont s'atrophier. Si jamais finalement la seule expression politique que vous avez, c'est une élection tous les 5 ans pour un leader qui a beaucoup de pouvoir, vous n'allez pas être très, très impliqué. Et le RIC, pour moi, c'est une réponse à cela en partie.
Ça me rappelle le slogan du Canard Enchaîné, la liberté de la presse ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Merci beaucoup Dimitri Courant. Je rappelle, vous êtes doctorant, chercheur à Paris 8 et à Lausanne. Votre dernière première publication, les Assemblées citoyennes en Irlande, tirage au sort, référendum et constitution. Merci d'être venu ici avec nous en direct sur Europe 1.
Europe 1.
L'enchaînement est tout trouvé. Les plus grosses fortunes mondiales qui veulent faire le bien à travers des œuvres de charité, c'est courant, cela porte même un nom, le philanthrocapitalisme. Mais les intentions de ces milliardaires sont bien souvent ailleurs. Mon prochain invité s'est penché sur l'exemple le plus emblématique, la fondation Bill Gates. Le journaliste Lionel Astruc est avec nous dans un instant.
18h30, on retrouve Philippe Vandel pour la suite de votre grand journal du soir.
Et la suite, c'est le rappel des titres avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Cela fait une heure maintenant qu'Édouard Philippe tient une réunion à Matignon. Objectif, apporter les décisions fortes promises par Emmanuel Macron au lendemain des violences sur les Champs-Élysées. Christophe Castaner et Bruno Le Maire iront s'expliquer sur ces événements mardi au Sénat. Recueillement et émotion en Nouvelle-Zélande, deux jours après la double attaque contre des mosquées de Christchurch. Le pays a rendu hommage aux 50 victimes de la tuerie. Premières analyses des boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines. Elles montrent bien des similarités entre ce crash et celui du Lion Air en octobre dernier. Le rapport préliminaire sur les causes de l'accident sera rendu dans un mois.
Merci beaucoup Sophie, à tout à l'heure pour votre journal complet. Il sera 19h.
Europe 1.
Mais la météo, c'est maintenant. C'est avec vous Valérie Darmon. Demain, c'est sous un ciel gris que les températures poursuivent leur baisse.
Absolument, comprise en matinée entre 1 et 6 degrés du nord au sud, 7 à 10 près de la Méditerranée, et l'après-midi 8 à 11 du nord de la Seine à l'Auvergne et à Rhône-Alpes sous les averses et la fraîcheur, 11 à 13 dans l'ouest où il fera un petit peu plus doux grâce aux éclaircies et jusqu'à 18 près de la Méditerranée. Côté ciel, des Hauts-de-France à Rhône-Alpes en passant par le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, averses et giboulées à prévoir demain. Il neigera à des 500 mètres d'altitude et on attend tout de même jusqu'à 20 cm de neige dès 900 mètres. Côte de la Manche, Auvergne, Nouvelle-Aquitaine, Pyrénées, là vous retrouvez des éclaircies en toute fin de journée, avant ce sera très nuageux. Près de la Méditerranée, retour du grand beau grâce au vent, avec des rafales à 90 km/h sur le sud du Massif central, en Roussillon, en Basse-Vallée du Rhône, jusque dans l'arrière-pays provençal et les Alpes-Maritimes. Et encore, ça va souffler encore plus fort, jusqu'à 130 km/h.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Bonne fin de week-end avec Europe 1. Philippe Vandel, maintenant avec votre deuxième invité, on va parler gros sous.
Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a longtemps été l'homme le plus riche du monde. Désormais, il n'est que deuxième, si j'ose dire. Fortune estimée 98 milliards de dollars. Le premier, Jeff Bezos, avec 138 milliards de dollars. En 2000, Bill Gates a créé sa fondation à des fins philanthropiques qui dispose d'une dotation globale de 43,5 milliards de dollars. Pardon pour tous ces milliards. Bonsoir Lionel Astruc.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, journaliste, auteur d'un essai qu'on peut qualifier de vitriol, L'art de la fausse générosité. C'est sous-titré et c'est consacré à, je vous cite, la fondation Bill et Melinda Gates, c'est chez Actes Sud. Alors d'abord, quels sont les buts déclarés de la fameuse fondation Bill et Melinda Gates?
Alors, les buts officiels, si vous allez sur le site internet de la fondation Bill et Melinda Gates, c'est l'agriculture, améliorer les rendements, etc. Lutter contre les inégalités, réduire la faim, lutter contre le paludisme. En fait, il y a beaucoup de secteurs d'activité dans la fondation Bill et Melinda Gates. Et c'est aussi ce qui a fait une forme d'éparpillement et d'opacité qui m'a incité à enquêter aussi.
Alors en 98, Bill Gates et Microsoft ont connu un gros revers. Ils ont essuyé 4 ans de procès pour méthode illégale, abus de monopole, etc. Je ne vais pas tout détailler. Et vous dites que tout est parti de là. En 2000, il crée sa fondation.
Oui, c'est un élément qu'on oublie souvent parce qu'en France, on n'a pas vraiment été marqué par ce procès, alors qu'aux États-Unis, la population a été fortement marquée, et tout particulièrement, évidemment, Bill Gates, puisqu'il a été humilié en direct à la télévision. Il y a un moment donné où vraiment, il ne pouvait plus rien dire parce que, bah oui, il avait tort et il s'est fait prendre la main dans le pot de confiture. Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il a eu vraiment à cœur de redorer son blason et peut-être aussi sincèrement de faire œuvre de plus de générosité, si on peut appeler ça comme ça.
Alors, appeler ça comme ça, il crée sa fondation. Vous avez gratté le vernis derrière l'image du gentil et richissime philanthrope, milliardaire, désintéressé. Qu'avez-vous découvert schématiquement?
J'étais vraiment étonné en fait par ce renversement d'image de quelqu'un qui était le champion de l'accaparement de richesse, qu'il devienne d'un seul coup le champion de la générosité sur la terre entière. C'est vraiment ça qui m'a surpris. Alors schématiquement, c'est un mécano financier qui est en réalité très simple. Le rez-de-chaussée de ce mécano, c'est l'évitement fiscal. Pour moi, on n'est pas généreux lorsqu'on donne l'argent des autres. Donc la première chose, c'est que Microsoft Certains fiscalistes britanniques l'appellent une œuvre de planification géante de détournement fiscal.
Ça, c'est Microsoft. Mais moi, je vais commencer par parler de la Fondation. Petit détail, mais qui a son importance extrême, je l'ai appris en vous lisant, l'argent de la Fondation n'est pas distribué à des œuvres qualitatives, il est confié à un fonds d'investissement qui le place ensuite dans des centaines de sociétés. Qu'est-ce que ça change ?
Ça, c'est le premier étage du mécano. On a décrit le rez-de-chaussée. Le premier étage, c'est ça. Donc, en fait, l'argent n'est pas donné, il est effectivement investi. Ce n'est pas le fait qu'il soit investi et que seuls les dividendes servent à être donnés qui pose problème. Pourquoi pas ? Ça existe ailleurs.
Ce qui vous gêne, c'est l'endroit où il est investi.
Le problème, c'est effectivement la nature des investissements. Comment est-ce qu'on peut prétendre lutter contre les problèmes de santé, l'obésité, la pauvreté, etc. Et d'un autre côté, investir dans l'industrie de l'armement, les énergies fossiles, avec BP par exemple,
Total, Shell, Chevron.
Les OGM, Monsanto.
Ouais.
La malbouffe avec Coca-Cola, McDonald's, etc.
Vous oubliez Pepsi.
Voilà.
Et alors donc, que dans les prétendues préoccupations de Bill Gates, il y a protéger la santé et aider les populations pauvres.
Voilà. Donc, il y a une contradiction qui est tellement grosse que ça me semble difficile de passer à côté, de ne pas la dénoncer.
Alors, il y a aussi la question de la santé. Officiellement, la Fondation veut apprendre aux agriculteurs des modalités de production durable, sauf qu'en pratique, c'est l'inverse.
Vous ne verrez jamais Bill Gates parler d'une solution naturelle, d'agroécologie, d'agriculture bio, etc. En fait, Bill Gates est vraiment obsédé par les questions de technologie. Il pense qu'on va sauver la planète grâce à la technologie.
Et aux OGM.
Et aux OGM. On a le droit d'avoir cette opinion. C'est encore une fois pas vraiment le problème. Le problème, c'est que lorsqu'on concentre autant de richesses, lorsqu'on fait partie de ces 26 milliardaires qui concentrent 48% des richesses, eh ben on n'en est plus seulement à donner son avis, on en est à l'imposer. Et c'est ce que Bill Gates fait à travers sa fondation, et notamment en Afrique, où vraiment il force l'accès au marché avec sa fondation, et derrière, il y a ses partenaires financiers, tels que Monsanto, qui arrivent et qui accroissent leurs ventes grâce à la fondation.
Rapidement, le plus dingue, c'est qu'avec ses milliards distribués partout sur la planète, Bill Gates est toujours de plus en plus riche.
Ça fait aussi partie des éléments qui vraiment ont suscité ma curiosité. Comment est-ce qu'on peut passer de 56 milliards de dollars de fortune nette estimée par Forbes en 2011
à 98 aujourd'hui.
98 aujourd'hui en 2019. Ce que fait Bill Gates, c'est qu'il donne l'image de quelqu'un qui va se dépouiller au profit des pauvres. Et il se sert largement des médias pour le faire. Aujourd'hui, c'est mondialement connu. C'est même devenu une icône, en fait, de la grande générosité. Et la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il s'enrichit dans des proportions qui sont incroyables.
Sur le dos des plus pauvres, merci les OGM, merci la malbouffe, merci le CO2. Ça s'appelle l'art de la fausse générosité. Et je vous dis merci, Lionel Astruc.
Merci.
Avec ses 70 séries, dont 40 en première vision, c'est le Festival de Cannes des séries. Le Festival Sériemania de Lille commence ce vendredi. Pour en parler, je reçois son président, membre du conseil d'administration de Netflix, Rodolphe Belmer. Et puis, la chronique de Renaud Revel qui creuse la parité homme-femme dans les médias. Et je peux vous dire qu'il y a encore du boulot.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h39, c'est l'heure de notre page média, Philippe Vandel.
Bonsoir Rodolphe Belmer.
Bonsoir Philippe Vandel.
Vous êtes ancien numéro 2 de Canal+, de 2012 à 2015, et en entrant dans le studio, vous m'avez dit, je suis dans mon bureau.
C'est exactement là, mon bureau, c'est mieux rangé qu'à mon époque, je vous félicite.
Mais c'est pas que c'est mieux rangé, c'est qu'il n'y a rien. C'est un studio nu, juste la parole et l'intelligence de l'invité. Vous avez été l'artisan de la relance de Canal+, après l'âge d'or, je ne vais pas raconter de votre vie, mais quand même vous avez lancé Le Grand Journal, Le Petit Journal, Ali Badou, Mouloud Achour, et vous êtes depuis janvier 2018 membre du conseil d'administration de Netflix. Votre parole est rare dans les médias, et votre actualité immédiate, c'est que vous êtes le président du festival Sériemania, basé à Lille, qui va démarrer vendredi 22, ça va durer jusqu'au 30 mars. L'an passé, gros succès, 56 000 spectateurs en provenance de toute la France, 2000 pros venus du monde entier de 40 pays, on en attend 2500 cette année. Qu'est-ce qu'ils trouvent à Sériemania qu'on ne trouve nulle part ailleurs, si je puis me permettre ?
Plusieurs choses. D'abord, c'est un festival qui a comme caractéristique d'être à la fois un festival qui a un point de vue artistique très affirmé sur les séries, donc avec une sélection très exigeante, et en même temps, un festival très populaire.
C'est-à-dire que c'est populaire, c'est pas Cannes. C'est-à-dire que les gens peuvent aller voir les séries. Il y a des projections. Comment ça se passe ? Je sais que l'an passé, c'était Lille, et cette fois-ci, il y a 6 villes.
On essaye de rayonner dans toute la région des Hauts-de-France. Le cœur, c'est Lille. C'est là qu'il y a le plus de salles et qu'il y a le plus de séries en projection. Mais c'est vraiment un festival populaire parce que les gens se massent pour voir les séries. On a ouvert la billetterie il y a quelques jours. En une heure, on avait distribué 16 000 billets et en une journée, 30 000 billets. Alors que l'année dernière, on a fait 56 000 places au total. Alors, ce sont des billets qui sont gratuits. On demande aux gens quand même de les retirer, mais un énorme succès populaire.
Ah, c'est gratuit en plus ?
C'est gratuit, bien sûr.
Au programme, 70 séries sélectionnées, 40 en première vision mondiale. Il y a notamment Osmosis qui est produite par Netflix. Il y a une compétition, un palmarès. Quel genre de séries sont en compétition ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Vous avez relevé trois tendances.
Incertitude de l'avenir, faux semblant et années 90.
Moi, quand j'étais jeune, c'était le revival des années 80. Et maintenant, on est passé aux années 90.
Exactement, c'est là à ça qu'on voit qu'on vieillit.
Le comité de sélection a vu 450 séries pour en retenir 70. Et vous ? Vous êtes un accro des séries, vous en avez vu combien ?
Moi, j'en ai vu aucune des séries qu'on va présenter. En fait, je n'ai pas le droit de les voir parce que les séries, elles sont sélectionnées par Frédéric Lavigne et son équipe, c'est le sélectionneur. Et moi, je n'ai pas de point de vue à avoir. Enfin, je ne cherche pas du tout à orienter leur sélection. Je trouve qu'ils font un travail merveilleux et moi, j'aime bien qu'ils me surprennent, comme ils surprennent tous les spectateurs du festival.
Invité d'honneur Uma Thurman, elle va donner une masterclass à Lille. L'entrée est libre, là encore ?
Oui, l'entrée est libre partout. C'est un festival qui est ouvert au public.
Mais elle va raconter quoi, Uma Thurman ? La salle va être trop petite. Quoi qu'elle dise, la salle va être trop petite.
Bah, je pense que la salle va être trop petite et moi j'espère bien être au premier rang. Et voilà, parce que je crois qu'elle est vraiment très heureuse de venir à la rencontre du public français. Elle sait que le public de Lille est très chaleureux et elle est très impatiente de venir à sa rencontre.
Autre événement, Rodolphe Belmer, un forum dédié aux professionnels qui aura lieu du 25 au 27 mars, seront présents. Un jour, Franck Riester, ministre de la Culture, et les plus grands patrons de l'audiovisuel français, Gilles Pélisson du groupe TF1, Delphine Ernotte pour France Télévisions, qui est chapeaute, qui est à la tête de France Télé, Nicolas Taverneau, le patron du groupe M6, et le directeur des programmes de Netflix. Ils vont participer à un sommet bilatéral entre l'Union européenne et les États-Unis pour discuter de quoi ?
En fait, l'idée, c'est de faire se rencontrer les décideurs du monde de l'audiovisuel et qui pensent l'audiovisuel européen de demain. On est dans une phase de globalisation de l'audiovisuel sous l'impulsion des plateformes américaines et c'est important de penser notre audiovisuel à nous, quelle est la place de l'Europe dans le concert audiovisuel mondial de demain.
Auparavant, ils pensaient les uns contre les autres et là, ils pensent ensemble.
On essaye de faire ça et c'est franchement très intéressant et le plateau d'invités montre qu'en fait, cette démarche amène beaucoup d'intérêt. Et j'ai oublié de dire qu'il y a aussi les auteurs qui sont là. Il y a Pascal Rogard, il y a SACD qui est là. Il y a des créateurs qui sont sur scène aussi et qui viennent donner chacun un point de vue et qui essayent d'élaborer cette vision-là. Et le fait qu'on ait besoin de prendre conscience qu'on doit se regrouper pour favoriser l'émergence d'un audiovisuel européen puissant demain, je pense que c'est un signe très fort.
C'est d'autant plus étrange de vous entendre dire ça, Rodolphe Belmer, que depuis janvier 2018, vous faites partie du board de Netflix. Vous n'êtes que 10, dont seulement 2 Européens, un Allemand et vous. Alors Netflix, je vais le dire en chiffres, c'est les géants américains de la VOD. 140 millions d'abonnés dans le monde, près de 4 millions en France. Les chiffres sont secrets, je ne vous demanderai pas de les commenter. 13,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. De quel œil voyez-vous l'arrivée annoncée de Salto, qui serait le Netflix à la française, porté par TF1, France Télévisions et M6 ?
Il y a une énorme vague de développement de la SVOD dans le monde et qui accompagne la vague de développement des séries dans le monde. Mmh. Et donc, évidemment, Netflix a surfé cette vague en premier avec le succès magnifique qu'on connaît, mais il y a d'autres initiatives qui se font jour un peu partout. Et voilà, après, je leur souhaite bon vent et j'espère que ça marchera.
Vous pensez qu'ils vont avoir la taille critique pour lutter contre Netflix ?
Je pense que l'ambition de Salto, elle est française et il est probable que sur le marché français, ça trouvera sa place.
Quel avenir vous voyez pour les grands groupes nationaux de télé ? Est-ce que selon vous, ils vont subsister dans une échéance de 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme Ford, Renault, Goodyear ou Michelin sont encore là un siècle après les débuts de l'automobile ? Ou est-ce que les télés, pardon de dire à l'ancienne, ça va disparaître comme les dinosaures et que tout va se passer sur Internet ?
Moi, j'ai un point de vue très clair sur le sujet et qui est d'autant plus clair qu'aujourd'hui, vous ne l'avez pas dit, mais je dirige Eutelsat, qui est le plus gros distributeur de télévision au monde par satellite. Et moi, je pense que la télévision linéaire va continuer à exister, que ça restera durablement le média privilégié de divertissement des familles.
Mais de 5h à 20h, les familles, elles sont au contraire complètement éclatées. Il y en a qui regardent Yann Barthès, il y en a qui regardent Hanouna, il y en a qui regardent La 5, il y en a qui regardent Les Infos, il y en a qui regardent Les Ch'tis à Marseille.
Alors, il y a des gens qui ont des foyers plus ou moins grands, mais il y a des gens qui se rassemblent dans une seule salle, parce que vous avez manifestement un palais à votre disposition. Mais
non, c'est pas ça, c'est que maintenant la télévision, elle est sur les ordinateurs, elle est sur les portables. Oui, donc maintenant, chacun peut regarder sa petite émission dans son petit coin.
Donc en fait, l'analyse que j'essayais de faire, c'est que quand la famille est dispersée, forcément, les membres de la famille vont regarder une offre à la demande. Quand la famille est rassemblée, donc par exemple pour dîner ou dans des moments de rassemblement de la famille qui ne sont pas forcément du prime time, il faut bien avoir un consensus de divertissement commun. Et ce consensus, c'est la grille de programme apportée par la télévision.
Je n'ai pas un palais, mais j'étais ravi d'avoir Rodolphe Belmer à ce micro. Merci beaucoup d'être venu ici sur Europe 1.
Merci Philippe Vandel.
Dans votre bureau.
Exact.
18h46, la page média se poursuit sur Europe 1 avec vous Philippe Vandel et Renaud Revel.
Disparité salariale, sexisme, place des femmes à l'antenne et dans les comités de direction des chaînes télé et des radios, l'égalité femmes-hommes est devenue un sujet majeur dans l'audiovisuel. Mais beaucoup de chemin reste à faire. Bonsoir Renaud Revel.
Bonsoir Philippe.
Vous avez mené une enquête sur ce sujet, chiffres à l'appui, et ce que l'on apprend est assez édifiant.
Oui, parce qu'on est très très loin du compte, hein, Philippe. La parité exigée par les heures publiques n'est pas pour demain. Quelques chiffres d'abord, clés pour rappeler un peu le contexte. La présence des femmes sur les antennes télévision et radio confondues reste très basse en France, 39% seulement. Et le pourcentage de femmes au sein des différentes rédactions n'a pas progressé l'an passé, malgré les promesses, 38% seulement aussi. Quant aux écarts de salaire entre les hommes et les femmes au sein de ces entreprises, ils sont en moyenne de 10 à 15%.
Pardonnez-moi, à poste égal ?
À poste égal, bien sûr. Mais le plus intéressant est à venir. Mis en place par le ministère du Travail de Muriel Pénicaud l'an dernier et rendu aujourd'hui obligatoire par la loi depuis le 1er janvier de cette année, pour les entreprises employant plus de 250 salariés, un index de l'égalité homme-femme donne un aperçu du retard pris en la matière par les chaînes dites historiques, c'est-à-dire TF1, M6, France Télé, Canal+, ou encore Arte. 5 critères ont été retenus par ce ministère pour réaliser cet index. En forme tout simplement de bulletin de notes. Parmi eux, je cite, la diminution des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, la chance d'avoir ou non une augmentation de salaire, ou encore l'espoir d'obtenir ou non une promotion selon que vous êtes une femme ou un homme. Alors, ces critères mis en équation, on obtient une note sur 100.
Alors, venons-en aux notes proprement dites.
Alors, premier de la classe en 2018, avec 99 points, France Média Monde, vous savez, cette entité qui rassemble France 24 et RFI, c'est aujourd'hui la plus exemplaire du PAF. Viennent ensuite France Télévisions, 94 points, M6, 88, ou encore TF1, avec 85 points. Mais trois mauvais élèves ferment la marge de ce premier classement d'égalité dans le PAF. Radio France, avec 74 points, suivi de Next Radio, le propriétaire de BFM TV et de RMC, et Canal+, qui affiche tous deux la note la plus médiocre, 71 points.
Radio France, qui est pourtant dirigée par une femme, Sybille Veil. Alors, oui. Renaud, à quoi sert ce classement, si ce n'est à désigner ces entreprises du doigt?
C'est simple, et la loi est très claire en la matière. Ces groupes ont 3 ans pour se remettre à niveau et améliorer leur note dans cet index. Faute de quoi, ils s'exposent à des sanctions financières, un pourcentage de la masse salariale, pour être précis, 0,1% de la masse salariale de ces groupes. Tous ont pris conscience d'ailleurs qu'il y avait un vrai problème. C'est ainsi que Radio France vient de mettre en place au sein de l'entreprise une conférence itinérante de sensibilisation sur le harcèlement sexuel, par exemple, ainsi qu'une formation collective obligatoire pour l'ensemble des salariés sur le même sujet. Quant à Canal+, outre une charte de bonne conduite qui vient d'être édictée il y a quelques jours, elle lance cette année un plan d'action consacré aux écarts salariaux. Un budget a même été dégagé pour cela. Il représente 0,2% de la masse salariale du groupe. On voit, ce sont de premiers efforts dont on verra sans doute les effets dans les mois à venir. Donc rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau bulletin.
Et rendez-vous la semaine prochaine, Renaud Revel.
Merci
pour votre
Philippe.
Chronique Média. Dans un instant, il est en train de se garer. On retrouve Pierre de Villeneuve pour sa chronique Tout roule. Il y a 2 semaines, il vous présentait la nouvelle Peugeot 208. Cette semaine, sa rivale de chez Renault, la nouvelle Clio 5. A tout de suite.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Bienvenue si vous venez nous rejoindre sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec Philippe Vandel. Il est 18h54, tout roule Philippe.
Tout roule, c'est pas seulement une expression, c'est la chronique automobile de Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors ça y est, les Français ont pu voir la voiture qu'ils plébiscitent depuis 30 ans.
Oui, la nouvelle Clio, 5e génération de la voiture la plus vendue en France. C'est aussi la voiture la plus vendue en Europe dans son segment, le segment B, c'est-à-dire les grandes citadines. Depuis 1990, lorsqu'elle est apparue, il s'est vendu 15 millions de Clio dans le monde. Alors pour restyler un best-seller, faut pas avoir le crayon trop lourd. Il y a 2 ans, souvenez-vous, Audi, dans un autre segment, sortait la nouvelle Q5. Idem, on a fait les choses dans la sobriété. Ce qui fait que ça nous donne une Clio 5 qui ressemble beaucoup, beaucoup à la Clio 4. Simplement, elle est plus virile. Le dessin est le même, mais il est plus costaud. Les ailes, les portières sont comme élargies. Pourtant, elle n'est pas plus grande, elle est même un tout petit peu plus courte, 14 mm. En revanche, on gagne de la place à l'intérieur.
Mais justement, c'est donc à l'intérieur que ça se passe.
Oui, c'est là que se situent les principales innovations, mais c'est surtout là le changement de décor total. L'ancienne Clio avait un intérieur assez austère, il faut le dire. Là, plus rien à voir. On a repris de l'ADN de Saab et de BMW qui, vous le savez peut-être, avait dans les années 70 initié le cockpit, c'est-à-dire la planche de bord tournée vers
le
conducteur.
Je ne savais pas que ça venait d'eux.
Et oui, et bien là c'est pareil, d'autant que le levier de vitesse est rehaussé, ce qui fait que ça vous tombe sous la paume de la main, comme par magie, une fois votre bras accoudé. C'est ce qu'on appelle en automobile de l'ergonomie. C'est très bien fait, c'est beau, c'est lumineux. Vincent Dubroca, chef de produit Clio 5, nous en dit plus.
On a mis des matériaux de meilleure qualité et on a mis aussi la capacité de personnaliser l'ambiance intérieure avec de nouvelles couleurs.
Et avec tout ça, beaucoup de connectique.
En complément, effectivement, à l'intérieur, on a intégré les plus grands écrans du segment. Et c'est des écrans qui vont être connectés pour des recherches d'adresses via Google ou de l'infotrafic en direct.
Assistant trafic, régulateur adaptatif, freinage d'urgence, avertisseur d'angle mort, caméra 360, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipements.
C'est donc une voiture assez techno et sous le capot, le moteur.
Alors on est sur une toute nouvelle génération de moteurs, beaucoup plus efficient, 65, 75, 100 et 130 chevaux essence, 85 et 115 chevaux diesel, plus, et ça c'est la grande nouveauté, une hybride classique, donc non rechargeable. On s'enquiquine pas à trouver une borne de recharge ou à installer une prise dans son garage, surtout quand on n'a pas de garage. Il y aura bien sûr des versions luxe et sport, c'est-à-dire initiale et RS. Franchement, c'est bien parti pour cette nouvelle Clio qu'on a assez vite envie d'acheter. Après, certains préféreront peut-être le look un peu plus rassé de la nouvelle 208 Peugeot. Donc faites votre choix. Ces deux voitures entièrement nouvelles sur de nouvelles plateformes sont vraiment de beaux produits.
Et vous savez à quel point on voit que Clio est une marque forte ? Vous n'avez même pas prononcé la marque Renault.
Ben non, voilà.
La Clio,
et
c'est
vous
une
avez
Renault.
Raison. C'est une Renault. C'est dingue, hein.
Et lui, c'est un De Villeneuve. Pierre De Villeneuve, à la semaine prochaine.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h de Sophie Tussaud. À tout de suite sur Europe 1.
18h, 20h. Votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1. 18h, 20h. Philippe Vandel sur Europe 1.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, merci de nous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. Le Brexit, plus on approche de la date fatidique, plus cela ressemble à un casse-tête. Les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union, mais les députés ne sont pas d'accord. Ou plutôt, cette semaine, ils ont voté contre l'accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'Europe. Puis le lendemain, mercredi, ils ont voté contre une sortie sans accord. Comment s'y retrouver ? Réponse avec le journaliste Alex Taylor, anglais d'origine mais qui a pris la nationalité française. Il sera avec nous à 19h15. Et puis dans la dernière demi-heure, notre débat. Hier, le 18e samedi des Gilets jaunes, marqué par une participation en baisse mais des violences en forte hausse. Erreur de stratégie de maintien de l'ordre ou erreur de communication politique. Et puis on parlera également des européennes. À quoi joue le PS ? Pour dire les choses, la gauche est-elle foutue ?
Et vous pouvez réagir à l'actu en publiant un commentaire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 19h, bonne fin de week-end à tous. Le journal Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Les Champs-Élysées tentent de retrouver leur image de plus belle avenue du monde au lendemain des violences en marge de l'acte 18 des Gilets jaunes. Et pour apporter les décisions fortes promises par Emmanuel Macron, réunion ce soir à Matignon. Les Algériens de France toujours mobilisés, ils ont à nouveau protesté aujourd'hui contre le président Abdelaziz Bouteflika. Et puis les opérations de pompage ont commencé au large des côtes française pour éviter une pollution sur les plages du golfe de Gascogne.
Europe 1.
Les Champs-Élysées saccagés portent encore les stigmates des violences d'hier.
80 enseignes ont été vandalisées, dont une vingtaine pillées ou incendiées. Et aujourd'hui, Jean-Sébastien Soldaini, les passants n'ont pu que constater stupéfaits les importants dégâts.
Oui, nombreux sont ceux qui photographiaient les tags pas encore effacés ou bien les vitrines dont les devantures abîmées sont désormais cachées par des plaques de bois comme barricadées avec à l'intérieur des ouvriers qui s'affairent pour remettre les boutiques en état. Christopher vient de Malte, il s'attarde devant un magasin de sac à main.
C'est vraiment malheureux, car j'ai l'impression que des personnes innocentes auraient pu être blessées. Je pense tout simplement que ceux qui ont fait ça sont des criminels qui profitent d'une situation et qui créent tout ce bazar.
Les trottoirs sont entièrement nettoyés. Finalement, ce qui retient le plus l'attention des passants, ce sont ces quatre kiosques à journaux calcinés. Michel est venu spécialement de banlieue pour voir par lui-même.
Colère, évidemment.
quand on s'attaque au bouquin, j'ai l'impression de voir les nazis brûler des livres dans des autodafés. Ce n'est pas bien, c'est un crime. C'est un crime contre l'esprit. On ne doit pas faire ça. Vous savez, le pognon qu'on a mis là sous Chirac pour en faire vraiment la plus belle avenue du monde. Et régulièrement, on la saccage. Non, mais c'est fou.
Des badauds qui viennent grossir les rangs des clients sur les terrasses ou dans les boutiques. Une commerçante me confiait que c'est finalement un bon dimanche de travail, mais pas suffisant pour combler les pertes d'hier.
Merci Jean-Sébastien Soldaini sur les Champs-Élysées pour Europe 1. À la suite de ces violences, Emmanuel Macron a promis des réponses fortes. Édouard Philippe est toujours réuni à Matignon avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nunes, ainsi qu'avec la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Aurélie Herbemont, il devrait finalement se donner un peu de temps avant d'apporter ces fameuses réponses.
Effectivement, pas d'annonce officielle à attendre ce soir. A priori, Beauvau et Matignon travaillent depuis ce matin sur le sujet et les ministres sont donc avec le chef du gouvernement depuis plus d'une heure et demie. Alors l'hypothèse de nouvelles dispositions législatives n'est pas la plus probable dans la mesure où le Parlement a déjà voté une loi anti-casseurs. Problème, elle n'est pas applicable pour l'instant puisque le Conseil constitutionnel doit l'examiner. Dans la majorité, certains réclament en attendant une révision de la doctrine du maintien de l'ordre. On ne sait pas encore dans quelle voie le gouvernement ira. Il faut travailler pour prendre de bonnes décisions, explique-t-on à Matignon. Pas sûr que cela suffise à convaincre l'opposition qui accentue la pression sur l'exécutif. Les oppositions qui critiquent un gouvernement qui serait incompétent, impuissant face aux violences ou encore coupable de laxisme sécuritaire. Les sénateurs où la majorité est LR ont d'ailleurs décidé de convoquer des ministres mardi. Christophe Castaner et Bruno Le Maire devront venir s'expliquer devant la commission des lois et la commission des affaires économiques réunies sur les moyens mis en œuvre pour faire face à ces troubles et sur les conséquences pour le commerce et l'attractivité de la France.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Le gouvernement sous pression, donc attaqué par l'opposition. Écoutez Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, était l'invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
Il y a effectivement aujourd'hui un gouvernement qui ne fait pas son travail. Ça fait 18 semaines, ça fait pas 2 jours qu'on se retrouve avec des manifestations violentes. On a le sentiment d'un pouvoir impuissant alors qu'il a face à lui 1000 casseurs. Il y a des semaines où ils ont réussi à appréhender de simples manifestants et en revanche, pour les casseurs, c'est pas possible. Et je vois que chaque semaine, les déclarations se répètent. On a un pouvoir qui dit qu'il sera plus sévère la semaine suivante, mais en réalité, rien ne se passe. Pour ces commerçants, pour tous ces Français qui veulent passer simplement des samedis sans avoir à craindre pour leur sécurité, oui, c'est inquiétant.
Olivier Faure, invité ce matin du grand rendez-vous sur Europe 1.
Les Champs-Élysées, non, je ne suis pas sur le bon titre, on l'a évoqué.
Oui, on l'a évoqué, vous
oui,
savez.
Oui, durant les violences hier, de nombreux magasins ont été pillés.
Et hier soir, la police a mis la main sur un groupe de gilets jaunes qui rentraient en province avec les bras chargés de marchandises, Pierre de Cossette.
Oui, et c'est leur fanfaronnade qui les a perdus dans le train qui les ramenait chez eux dans le centre de la France. 5 passagers qui avaient quitté Paris en partant de la gare d'Austerlitz et qui se vantent d'avoir sur eux des objets volés sur les champs. La conversation n'échappe pas à un autre voyageur qui prévient la police. Le trajet du Quintet s'arrête plus tôt que prévu. En gare des Aubrais, à côté d'Orléans, les policiers les attendent et les arrêtent. Bingo, une cafetière Nespresso, une dizaine de vêtements, Hugo Boss et Célio, et un collier Swarovski, devenu de boutiques dévalisées. Les suspects ne sont pas des petits jeunes, ce sont 4 femmes inconnues de la justice et un homme connu pour alcool au volant. Ils sont âgés de 40 à 55 ans, originaires de Montluçon dans l'Allier. Des gilets jaunes qui ont déclaré en garde à vue avoir trouvé toutes ces affaires par terre, mais jamais avoir cassé de vitrine. Ils seront jugés début juin pour recel de vol.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1.
La suite du journal dans un instant avec les manifestations anti-Bouteflika et le risque de pollution sur les côtes du golfe de Gascogne.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 19h07, la suite du journal sur Europe 1. Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Les Algériens à nouveau rassemblés contre Abdelaziz Bouteflika.
Des manifestations ont eu lieu aujourd'hui en Algérie contre la prolongation sine die du mandat du président algérien, mais également aux quatre coins de la France, comme à Marseille où la détermination des manifestants reste intacte, Stéphane Frangy.
Oui, c'est le premier rassemblement ici suite à l'annonce du report des élections et la colère est montée d'un cran pour beaucoup, c'est le cas de Nadir.
C'est qu'on le prend pour des cons. En fait, il a fait une stratégie pour rester encore plus longtemps sans avoir des élections. Nous, on voulait avoir les élections, mais sans eux. Du coup, on a eu tout le contraire, de pire en pire.
Et pour donner de la voix contre le système, Bouteflika, Soria et sa famille ont fait de la route.
200 km, juste pour ça, ouais. Là, aujourd'hui, on a voulu marquer le coup, ouais, pour mettre un petit peu le doigt dessus, là, parce que justement, là, on a toutes les preuves d'un foutage de gueule total, que tout ça, c'est une grosse farce et puis qu'il faut que ça s'arrête, quoi.
Sur le quai du Vieux-Port, deux drapeaux algériens d'une dizaine de mètres de long sont déployés, du vert et blanc un petit peu partout, du rouge également sur les épaules de Hichem, un Tunisien venu en solidarité.
On est pareil, l'Algérie, la Tunisie, au Maroc, ce n'est tous des Maghreb, on est pareil. C'est important, on est là avec vous. Voilà.
Mais certains, l'image de Karim, veulent grossir les rangs des cortèges en Algérie.
Par rapport à mon travail, mon planning ici, j'essaie de prendre deux jours pour partir en Algérie. Si je peux me libérer pour le vendredi, je vais aller faire la manifestation, exprimer ma colère là-bas sur place. Ça va faire du bien.
Des manifestants qui sont également nombreux à s'exprimer sur la position de la France. Certains espèrent une réprobation officielle de ce qui se passe en Algérie. D'autres, à l'inverse, attendent de la diplomatie française de rester discrète.
Stéphane Frangy à Marseille pour Europe 1. Il y a bien des similarités claires entre le crash d'Ethiopian Airlines il y a une semaine et celui du Lion Air en octobre dernier. Annonce ce soir du gouvernement éthiopien après analyse des boîtes noires. Le rapport préliminaire sur les causes du crash sera publié dans un mois. En Nouvelle-Zélande, les hommages aux victimes des attaques des deux mosquées se multiplient avec un élan de solidarité interconfessionnelle. 50 personnes âgées de 3 à 77 ans ont été tuées par un extrémiste australien de 28 ans.
La pollution causée par le naufrage du Grande America menace toujours les côtes françaises.
Les nappes d'hydrocarbures devraient toucher les plages du littoral en début de semaine. Les opérations de pompage en mer ont commencé malgré des conditions difficiles, Pierre-Baptiste Vanzini.
Dans le golfe de Gascogne, les conditions sont loin d'être évidentes avec des creux de près de 4,50 m. Et pourtant, la marine nationale arrive à capter le pétrole en mer. C'est grâce au chalut qu'a imaginé Thierry Tomaso, le patron pêcheur vendéen qui avait été bouleversé par la catastrophe de l'Erika. Il a mis des années à mettre son système au point et c'est désormais pour lui le moment de vérité.
Tous ces efforts depuis 15 ans de préparation des marins pêcheurs, d'entraînement, de formation, d'achat de matériel, c'était pour une journée comme aujourd'hui en fait. Je pense que les hommes sont prêts, les pêcheurs sont prêts, la marine nationale est prête à commander tout ça. Moi je suis confiant. Je suis sûr que les pêcheurs vont à nouveau démontrer que le pays peut compter sur eux.
Et oui, les pêcheurs, parce que quand le pétrole sera là, près des côtes, ce seront les chalutiers qui vont être réquisitionnés et qui vont utiliser les chaluts qui sont assemblés ici en ce moment, en Vendée au plus vite. Florian, le chef d'atelier, et toute son équipe sont à l'œuvre depuis très tôt ce matin.
Ah non, la pollution n'a pas de dimanche, n'a pas de jour férié. On marche comme la marine, on doit être main dans la main pour être efficace au plus. On y va.
Reste à savoir maintenant où le pétrole va toucher les côtes. Les deux premières nappes qui se sont échappées du Grande America ont pour l'heure disparu des écrans radars. Le fenouillé Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie.
Europe 1, 19h10.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Demain, est-ce que le ciel se calme ?
Pas encore tout à fait, mais il y a un léger mieux. C'est dans l'Est que le temps sera le plus instable, résidu de la dégradation d'aujourd'hui. Tout au long de la journée, les averses y seront fréquentes. Beaucoup de neige aussi à prévoir sur les reliefs, avec une limite plus neige aux alentours de 500 mètres d'altitude en matinée. En allant vers l'Atlantique, vous aurez davantage d'éclaircies, surtout en fin de journée, grâce au retour de l'anticyclone des Açores qui se renforce. Mais le risque d'averses n'est pas évacué pour autant. Beau temps retrouvé, en revanche, en Méditerranée, grâce au vent, les températures poursuivent leur baisse en ce lundi et les maximales oscilleront entre 9 à Rodez ou encore à Saint-Étienne et 17 à Marseille et Montpellier. En région parisienne comme à Bordeaux, il fera 13 demain après-midi.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec Cyril de la Morinerie. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Philippe.
On commence par du foot, c'est le choc, l'un des matchs de l'année. Le PSG accueille ce soir l'Olympique de Marseille.
Soirée spéciale sur Europe 1, rendez-vous dès 20h avec Lionel Rousseau et nos spécialistes pour vous faire vivre le classique. Paris éliminé de la Ligue des Champions, humilié par Manchester United. L'OM va tenter d'en profiter pour mettre fin à pratiquement une décennie d'insuccès, Jean-François Pérez.
C'était il y a un peu plus de 9 ans. Grâce à Ben Arfa, Lucho et Cherou, l'OM s'imposait au Parc 3-0 et filait vers son dernier titre de champion à ce jour. À part Steve Mandanda, qui gardait déjà les buts marseillais, tout a changé depuis. Le Qatar et ses fonds quasi illimités ont pris le pouvoir au Paris Saint-Germain. Les stars internationales ont remplacé les Apoula Edel, Kiesman ou Sankaré et la tendance s'est furieusement inversée. Si l'on excepte octobre 2016, quand un OM ultra-défensif avait arraché le 0-0 pour le baptême de Rudy Garcia, les Marseillais sont devenus une sorte de défouloir idéal. idéal pour des Parisiens, trop fort pour la Ligue 1, mais trop faible pour l'Europe. Des Parisiens encore sous le choc de l'élimination en Ligue des Champions face à Manchester. L'occasion peut-être pour cet OM ragaillardi par l'arrivée de Balotelli de reprendre la main, ne serait-ce que pour un soir.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, que l'on retrouvera ce soir aux côtés de Julien Froment pour ce PSG-OM, en présence peut-être de Mario Balotelli. L'attaquant italien est à Paris, mais sa participation à la rencontre reste encore incertaine.
Oui, il est arrivé seulement aujourd'hui. Les autres matchs de la 29e journée, à commencer par le match nul entre Bordeaux et Rennes.
Un partout, score final, Bordeaux mené au score grâce à un but de Camano, mais Rennes a égalisé dans les arrêts de jeu grâce à Niang. Un peu plus tôt, le Stade de Reims s'imposait contre Nantes 1-0, et puis victoire de Lyon face à Montpellier, 3-2.
Du ski alpin maintenant, l'équipe de France termine la saison en beauté.
Deux courses et deux victoires ce week-end après Alexis Pinturault, victorieux du géant hier à Andorre. Clément Noël a triomphé entre les piquets. Succès en slalom, son troisième de l'hiver. Le skieur de 21 ans était forcément très heureux sur la ligne d'arrivée.
C'est super, c'était une super ambiance, une super piste. Et je suis vraiment content de finir la saison sur une super note comme ça. C'est sûr que je ne m'attendais pas à finir deuxième du général du slalom. C'est une surprise, c'est une bonne surprise. On espère toujours jouer devant et ce que j'ai réussi à faire, pas tout le temps mais assez souvent quand même, donc c'est cool.
Marcel Hirscher, qui a terminé 14e du slalom, remporte néanmoins le classement général de la Coupe du Monde de ski alpin, le Grand Globe de Cristal, pour la 8e saison consécutive.
Et puis on n'est pas loin du ski biathlon, l'équipe de France termine sur une bonne note ces championnats du monde.
Antonin Guigona a décroché l'argent sur la Mastart en Suède, malgré des conditions météo très compliquées avec de la neige et du vent.
Au dernier tour, j'ai pensé à un moment que j'aurais peut-être pas de médaille et j'ai commencé à être un peu fataliste avant de serrer les dents. Je sais que même en étant vraiment fatigué, je suis capable de surclasser un peu n'importe qui dans le biathlon. Donc c'est ce qui fait que j'arrive à me battre jusqu'au bout parce qu'il y a quelque chose à faire dans la dernière ligne droite.
Antonin Guigona, malgré tout, bilan plus que mitigé pour l'équipe de France de biathlon. 4 médailles seulement, 3 en bronze et 1 en argent. On connaît la raison, la défaillance de son leader Martin Fourcade qui sort bredouille de ses mondiaux.
Et puis là, on change de sport, rugby, 19e journée du top 14.
À Toulouse, toujours leader après son large succès contre Lyon, 53-21. Clermont-Son Dauphin accuse 7 points de retard malgré sa victoire, 27-14 contre Pau. Le tournoi des 6 nations féminins, défaite des Françaises en Italie, 31-12. Du cyclisme avec le Paris-Nice aux mains des Sky, le jeune Colombien de 22 ans, Bernal, remporte la course. Du handball avec le PSG qui s'adjuge la Coupe de la Ligue, sa 3e d'affilée après sa victoire contre Montpellier, 31-25. Enfin, en Formule 1, pour vous faire plaisir Philippe, le Finlandais Valtteri Bottas s'impose en Australie, premier Grand Prix de la saison.
Ah bah je le savais, j'ai mis mon réveil à 6h du matin. C'était le journal des sports. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie.
Europe 1.
Qui comprend encore quelque chose au Brexit? À précisément 12 jours de la date du divorce, on ne sait toujours pas s'il aura vraiment lieu. Mon prochain invité est tellement affligé par le sort de son pays qu'il a demandé la nationalité française après le vote au référendum. Le journaliste Alex Taylor vient nous partager son analyse, tout aussi amusé qu'atterré. À tout de suite sur Europe 1.
18h-20h. Votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Vous écoutez votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1. Il est 19h17, on va parler géopolitique et on commence par un casse-tête, Philippe.
Le Brexit, comment expliquer simplement la situation la moins simple du monde? Je vais essayer. Il y a 2 ans, par référendum, les Britanniques ont voté pour leur sortie de l'Union Européenne. C'est le Brexit qui doit prendre effet le 29 mars, c'est-à-dire dans 12 jours, sauf que c'est plus compliqué que ça à cause du Parlement. Mardi, les députés ont voté contre l'accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'Europe, accord soumis par leur Premier ministre Theresa May, donc ils sont contre l'accord. Mais le lendemain, mercredi, ils ont voté contre une sortie sans accord, ce qu'on appelle un no deal. On en est là. Bonsoir Alex Taylor.
On en est là, c'est encore 1000 fois plus compliqué en fait.
J'ai essayé de résumer,
merci,
je l'ai dit.
Bravo, bravo.
Vous êtes journaliste européen d'origine britannique, vous habitez la France depuis 40 ans et vous avez même pris la nationalité française. C'est impossible à résumer, mais je ne peux pas ne pas vous poser la question. Comment vous voyez les 2 semaines à venir? Quelle est la solution la plus probable ou la moins improbable?
Quand on regarde le Parlement de mon ex-pays maintenant, c'est en fait le surréalisme sous stéroïdes. Parce que, quand même une chose pour montrer où on en est, ce que vous n'avez pas cité. Mercredi, par exemple, le gouvernement a menacé de virer des ministres qui n'étaient pas d'accord pour voter, écoutez bien, contre l'amendement qui venait d'être proposé par le gouvernement lui-même. On en était là. Le ministre du Brexit a même fait un vibrant appel pour qu'on vote pour le report du Brexit. et quelques heures après, il a voté contre son propre projet. Enfin, ça atteint des proportions absolument ridicules. Monty Python aurait été très fier.
On dit que Theresa May va finalement renoncer à faire voter les députés britanniques une troisième fois. Mais en cas de refus, en cas de choix dur, Theresa May pourrait réclamer un délai supplémentaire de 2 ans pour le Brexit, donc bien au-delà du 29 mars. Mais pour l'instant, l'Europe refuse et on arrive à un nouveau casse-tête. Si le Royaume-Uni ne quitte pas tout de suite l'Europe, ils vont devoir organiser les élections européennes du 26 mai.
Ah bah ça se passera pas, parce que de toute façon, ça ne convient ni aux Européens, ni aux Britanniques qui veulent Brexiter. Mais tout dépend. Vous avez cité la chose essentielle, ce qui se passe ce week-end. C'est que ça dépend du ministre des Finances, combien il est prêt à sortir de sa poche pour faire des pots de vin à ces 10 députés de l'Irlande du Nord qui normalement soutiennent, parce qu'on a déjà payé assez fort pour leur soutien pour le gouvernement, mais là ils refusent. Tant que le ministre ne sort pas encore des milliards pour l'Irlande du Nord, pour ses infrastructures, donc ils font payer cher leur soutien. On ne sait pas s'ils vont dire oui ou non. À mon avis, ils sont en train de dire encore 1 milliard chaque jour pour qu'ils disent oui. On ne sait pas si ça va passer mardi, mercredi ou encore peut-être à 2-3 jours du Brexit. Alors c'est terrible pour les citoyens, c'est terrible pour les business.
Alors, je ne vais pas faire de politique fiction, mais je vais annoncer que dans 2 semaines, vous allez publier à Alex Taylor un livre sur le Brexit aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous allez faire comme le Brexit ? Vous allez tenter de le reporter pour ajuster les derniers rebondissements ?
Bah, j'avais mis, vous savez, en fonction raccourci clavier, à l'heure où j'écris ces livres.
Ouais.
Mais enfin, ça devenait à la minute où j'écris ces livres, parce que tout change d'heure en heure. Ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est, sans prévoir l'avenir, parce que déjà dans 2 semaines, je ne sais pas si mon ex-pays sera oui ou non dans l'Union européenne et dans, sous quelle forme, mais de comprendre ce qui est mal compris en France, c'est-à-dire les origines, les vraies origines de ce Brexit, qu'on ne comprend pas déjà sur place, et qu'on comprend encore moins bien, parce que ça n'a rien à voir avec l'Europe. En
alors expliquez.
C'est une vaste crise d'identité de mon ex-pays. Ce pays qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne sait pas quelle est sa place dans le monde. Et le Brexit, si vous voulez, c'est ce dernier cri d'alarme pour dire nous ne savons pas qui nous sommes. C'est aussi un pays qui se définit toujours beaucoup, enfin, la génération qui a voté pour le Brexit, ma génération, ceux qui ont 50-60 ans, c'est une génération qui se définit toujours par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Si vous regardez la presse britannique, dont 80% des articles pendant le référendum étaient pour le Brexit, tout est toujours couché dans un vocabulaire de soumission, de victoire, avec comme arrière-pensée, l'Europe a bien davantage besoin de nous que nous deux. C'est pas pour rien qu'on a sorti la même année que le référendum les films sur Churchill, le film sur Dunkerque. Ils en sont toujours là. Enfin, cette génération qui, malheureusement, a privé la jeune génération britannique de leur vraie identité européenne, parce qu'eux, ils sont à 80% pour rester.
Et il faut dire que les personnes plus âgées, peut-être d'autres, ont été abusées par une énorme campagne de fake news. Pendant toute la campagne pro-Brexit, il y avait un bus qui circulait dans toute l'Angleterre avec ce slogan « Nous donnons chaque semaine 350 millions de livres à l'Europe », c'est-à-dire 400 millions d'euros.
Bah, vous êtes gentil, c'est pas des fake news, c'est des mensonges.
Donnons-les plutôt à notre sécurité sociale, tout était faux.
Ah bah, tout était faux, mais il le savait. Mais
ce qui est encore... le savait.
Oui, mais ce qui est encore plus fou, c'est que celui qui était devant le bus, vous savez, le Boris Johnson avec sa chevelure complètement qui part dans tous les sens, il ne voulait pas gagner. Écoutez bien, il ne voulait pas gagner. Il voulait juste marquer le coup et perdre de peu pour qu'il puisse prendre la place de David Cameron après. Manque de peau. C'est pour ça qu'il est allé se casser pendant 4 jours après l'annonce du référendum. Il était horrifié par le fait d'avoir gagné.
Et l'autre leader de la campagne du Brexit, Nigel Farage, pardon pour l'accent, a démissionné de la tête du parti anti-européen 2 jours après avoir gagné le référendum.
Mais ils en sont tous là. Mais c'est une tragicomédie. Vous avez à la tête du gouvernement quelqu'un, Theresa May, qui avait fait campagne en disant aux Britanniques « Ne sortez surtout pas de l'Union européenne, ça va être très mauvais ». Du coup, maintenant, parce qu'elle voulait devenir première ministre, elle est obligée d'afficher un soutien pour le Brexit le plus dur. Qu'est-ce que vous avez en face ? C'est ça la vraie tragédie, en fait, de la situation britannique en ce moment. C'est qu'il devrait avoir une opposition forte. Et en face, vous avez qui ? Jeremy Corbyn, qui a passé toute sa carrière à voter contre le moindre projet de loi qui avait le mot « Europe » dedans. Et maintenant, puisque... la majorité de ses députés, aussi la majorité de son électorat, était pour rester dans l'Union européenne, lui est obligé de faire semblant d'être de l'autre côté. Donc, Shakespeare n'aurait pas pu trouver quelque chose de plus cocasse.
Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Est-ce que vraiment il y aura une pénurie de fruits et légumes le 29 mars et surtout, le plus grave, une pénurie de médicaments?
Ça dépend si le pot de vin marche avec les 10 députés du DUP. On n'invente pas, il s'appelle le DUP.
Ouais. Ça marche en français.
Si on achète leur vote et si le deal par miracle passe, la Grande-Bretagne va sortir, il y aura donc moins de problèmes avec les embouteillages. Mais s'ils sortent sans indice, ce qui est tout à fait possible, dans 12 jours, je m'entends dire ça, c'est de la folie, mais s'ils sortent sans deal, effectivement, embouteillagement, c'est pour ça. Les seules personnes, vous savez qui c'est? Les seules personnes qui profitent du Brexit, vous savez qui c'est?
Dites.
Les gens qui font des cabines de toilettes portables dans le Kent, parce qu'il va y avoir tellement d'embouteillages dans les parkings de camions qu'ils ont déjà prévu leur coup, ils sont en train de fabriquer. Et aussi les fabricants de frigidaires qui stockent des milliers de médicaments et de produits pour le cas d'un no deal, peut-être dans 10 jours.
On y sera. Merci beaucoup Alex Taylor, vous êtes journaliste et dans 10 jours, vous allez publier Brexit, l'autopsie d'une illusion. C'est chez Jean-Claude Lattès. Merci d'avoir été avec nous ici sur Europe 1.
Thank you very much.
Europe 1.
À suivre, hier, 18e samedi des Gilets jaunes, marqué par une participation en baisse et des violences en forte hausse. Erreur de stratégie de maintien de l'ordre ou erreur de communication, la question est ouverte. On parlera également des européennes, à quoi joue le PS pour dire les choses. La gauche est-elle foutue? C'est notre grand débat d'actu jusqu'à 20h. Vous avez choisi Europe 1 et vous avez bien fait. À tout de suite.
Il est 19h26, c'est l'heure de notre grand débat d'actu jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Philippe Vandel, vous, Philippe et vos invités. Et pour nos auditeurs, eh bien, ils peuvent commenter ce débat avec le hashtag Europe 1 sur Twitter.
Autour de cette table, Mariette Darigrand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sémiologue, Marie-Ève Malouine, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste politique, Hugo Travers, bonsoir.
Bonsoir.
YouTubeur de la chaîne Hugo Décrypte, et on vous a vu notamment cette semaine dans l'émission politique de France 2 face à Marine Le Pen, on en reparlera. Mais d'abord, hier, c'était le 18e samedi des Gilets jaunes, marqué par une participation en baisse, je l'ai dit, et des violences en forte hausse, notamment les Black Blocs. Comment analysez-vous les violences qui se sont déroulées hier à Paris, Marie-Ève Malouine?
C'est d'abord assez inacceptable, ces violences qui n'ont aucun sens, qui ont démarré dès le départ de la manifestation, donc en lien pour provoquer la police et générer tout un mouvement.
Il était 11h, je me permets de vous interrompre, alors qu'autrefois, dans les manifs du samedi, c'était en fin de cortège, en fin de manifestation.
Oui, là c'était dès le départ, on sentait qu'il y avait, on voulait enclencher un engrenage avec la police qui répond, et à ce moment-là, les manifestants qui répondent encore plus, y compris ceux qui n'étaient pas forcément venus pour être violents, et puis ça dégénère, et là il y a un piège pour les Gilets jaunes, et avec, en plus, je trouve ça quand même déconcertant d'avoir vu des gens un peu danser de joie face à un incendie d'un kiosque, du Fouquet ou d'une banque en dessous d'un immeuble d'habitation. C'est révoltant et totalement déconcertant de voir des gens qui peuvent se réjouir de ça. Je ne vois pas le sens que ça peut avoir.
Pareil, Hugo Travers, je vous vois opiner du chef.
Ouais, non, je vous rejoins totalement. C'est assez déconcertant de voir, au-delà de ça, en fait, on va avoir le temps d'en parler ce soir, mais comment ça se fait que aujourd'hui, enfin hier plutôt, on a eu une ampleur aussi inédite dans les violences. Ça fait très longtemps qu'on voit des violences. Chaque samedi, on a des images qui circulent sur les réseaux sociaux et c'est toujours aussi désespérant. Mais essayer de comprendre comment ça se fait que hier ce soit particulièrement le cas, c'est un sujet qui est assez important et je pense qu'on n'a pas forcément toutes les réponses.
D'un mot avant de donner la parole à Darigrand, pardon, le Premier ministre Édouard Philippe a défendu une stratégie d'encerclement et de nasse. Il voulait éviter que les Black Blocs se répandent dans toute la ville et notamment dans la manif pour le climat qui se trouvait de l'Opéra à République. Marine Darigrand.
Oui, alors moi hier, en fait, j'avais du travail hier matin chez moi. Enfin, je travaillais sur quelque chose et j'ai pas fait tellement attention. Puis je suis sortie acheter la presse, un vieux geste. Hein.
Mmh. Et là, vous avez la chance d'avoir trouvé un kiosque qui n'était pas brûlé.
Ben, exactement. Et les gens parlaient de ça. Les gens disaient, il y a des problèmes aujourd'hui. Un kiosque à journaux a été incendié.
4.
Voilà, et en fait c'est parti comme ça, et du point de vue, si vous voulez, de la chronologie des choses, c'était un peu comme l'Arc de Triomphe. D'ailleurs, on revenait sur les lieux du début décembre, avec en plus cette dimension-là, totalement anti-médiatique. Et là, je dois dire que il y avait une sorte de consensus des gens dans la rue, hein, dès qu'ils allaient faire leur marché, etc., pour dire c'est pas possible, on peut pas brûler les journaux, c'est drôle. Je passe sur le gros incendie qui pose d'autres questions.
Vous disiez, Hugo Travers, comment tout cela est parti. Vous êtes allé sur les réseaux sociaux le vendredi et on voyait déjà les prémices de ça. Il y avait presque des appels à l'insurrection, à la violence.
Depuis le début en fait, du mouvement des Gilets jaunes, j'essaie d'aller un peu sur les groupes Facebook qui ont maintenant quasiment des centaines de milliers de membres, juste pour voir un peu l'atmosphère. Et c'est difficile de comparer évidemment les semaines et de voir si telle ou telle semaine, il y a plus d'appels à la violence ou quoi. Mais ce qui est évident, c'est qu'on a l'impression que sur la journée d'hier, il y avait ça devait être un événement particulier. Ça devait être une mobilisation particulière après quelques semaines où, effectivement, peut-être que ça faiblissait un petit peu. Mais de là à imaginer des telles violences, je pense que personne ne pouvait forcément le prévoir, quoi.
Alors, je veux dire, ça faisait 4 mois et le mot qu'il y avait sur les réseaux sociaux vendredi, c'était ultimatum, car c'était en gros 4 mois de manif de gilets jaunes plus la fin du grand débat national. Mariette Darigrand, vous qui êtes sémiologue, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ultimatum?
C'est un mot très très fort, hein. C'est un mot incroyable, inacceptable dans la démocratie telle qu'elle est. C'est un mot du vocabulaire de la guerre, c'est-à-dire que c'est la dernière chose, l'ultime chose que l'on fait avant de passer à l'action, c'est-à-dire au combat. Hein, donc c'est vraiment très étonnant. Bien sûr, on peut l'avoir même dans la vie privée, à la limite, une engueulade conjugale.
Un ultimatum, sinon je retourne chez ma mère.
Mais l'origine du mot, il faut vraiment l'entendre comme cela. C'est quand même vraiment un appel à une forme de guerre.
Mais alors justement, Marie-Ève Malouine, vous qui êtes grande connaisseuse de la chose politique, est-ce que ce mot n'a pas été pris à la légère par le pouvoir?
Le problème, c'est que quand on pose un ultimatum, on dit c'est un ultimatum où vous faites ceci ou cela. Or là, il n'y a que le mot ultimatum où c'est la guerre, mais il n'y a pas la revendication.
C'est intransitif, oui. Vous avez raison.
Et normalement, parce que les gens qui manifestent, qui sont violents, qu'on interroge, ils disent on est là pour pas céder, on ne lâchera rien, on veut avoir gain de cause, mais sur quoi? On ne sait pas. Puisque le grand débat a eu lieu pour reprendre tout ce que les gens souhaitent. Et c'est pas, mis à part les thématiques qui sont sur la justice sociale, les impôts, les services publics, des grands thèmes comme ça, après sur les mesures, tout le monde n'est pas forcément d'accord, tout le monde ne veut pas forcément du RIC, ou alors ça dépend de quel référendum d'initiative citoyenne. Donc là, il ne faut pas se leurrer non plus. On a vu, ce sont des groupes, des extrêmes, extrême gauche, extrême droite, qui ciblent le pouvoir financier, parce que c'est la banque, c'est le Fouquet, et c'est des kiosques à journaux. Derrière les kiosques, on peut supposer que ce sont les médias. On a aussi tagué la plaque qui était au nom de ce policier qui a été tué sur les Champs-Élysées. Taguer cette plaque-là, c'est quand même un mouvement qui est contre les institutions, comme le système républicain et démocratique. Donc c'est l'ultimatum, c'est on veut basculer dans un autre régime.
La plaque en hommage à Xavier Jugelet, la plaque qui a été remise aujourd'hui en présence du Premier ministre Hugo Travers.
Sur les réseaux sociaux hier, on a du coup des réactions des leaders des Gilets jaunes, et notamment Maxime Nicole. J'ai été voir ce qu'il a dit suite à cette mobilisation. Il a déclaré notamment « Aujourd'hui, j'ai été fier de voir que les gens ont arrêté d'être des moutons. Oui, il y a des violences et c'est regrettable, mais ces violences et ces destructions, ils ne viennent pas de nulle part. » Et c'est intéressant parce que c'est un discours qu'on entend depuis le début de ce mouvement, et à chaque fois qu'il y a des violences, ce discours de « Oui, il y a des voitures brûlées, il y a des incidents, mais c'est rien comparé à la violence sociale, etc. etc. » Ce qui est un discours que, honnêtement, je pense qu'on peut entendre dans le sens où effectivement, 3 voitures qui brûlent, c'est peut-être moins grave que, évidemment, une condition sociale très grave pour beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté. Mais là, le problème, c'est qu'on est à un moment où les violences sont inédites, et on parle pas de 2 voitures brûlées, on parle de quelque chose d'assez immense.
Une tentative d'incendie, c'est les assises.
Et on parle de 80 enseignes, on parle d'éléments inédits. Et donc, c'est inaudible comme justification, cette question de comparer à une condition sociale, etc. Parce que juste les violences sont massives et elles durent depuis des mois, et ça ne peut pas être une justification qui continue.
Avec une justification pour dire non, mais les commerçants, puisque des journalistes ont dit mais attendez, le kiosquier sur les Champs-Élysées, les petits commerces, c'est des gens comme vous. Et oui, mais non, mais sur les Champs-Élysées, tous les commerces qui sont sur les Champs-Élysées, les kiosquiers des Champs-Élysées font pas partie des pauvres. Comme s'il n'y avait pas des salariés au SMIC qui travaillent sur les Champs-Élysées. Il y a une haine qui est exprimée, même vous brûlez une banque qui est au pied d'un immeuble, il y a des gens qui habitent dans l'immeuble, il y a une famille qui a dû être évacuée, il y a des enfants qui ont été évacués par des policiers avec l'habillement qu'ils ont, rien que pour un gamin de 6 ans, c'est assez violent ça. Et j'ai entendu une gilet jaune dire ce sont des dégâts collatéraux. On peut pas dire ça.
On reste sur ce mot, on a parlé des faits, on va parler de communication tout de suite dans ce grand débat, à tout de suite sur Europe 1.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Suite de notre grand débat d'actu sur Europe 1, Philippe Vandel, vous vous êtes entouré d'une éditorialiste politique, Marie-Ève Malouine, du youtubeur Hugo Travers, sa chaîne s'appelle Hugo Décrypte, et d'une sémiologue, Mariette Darigrand.
On parle du 18e samedi des Gilets jaunes, la violence qu'il y a eu hier à Paris et notamment sur les Champs-Élysées. La politique, c'est également de la communication. Et au même moment, on a appris que le président Macron était parti pour un week-end au ski, en l'occurrence à la Mongie, alors que Paris était en état de siège. Cette photo-là s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Mariette Darigrand, un week-end au ski, c'est pas un week-end comme un autre.
Oui, alors écoutez, bon, il y a la vie privée, il y a la fatigue, etc. Le président de la République a le droit de se reposer. Oui. Bon.
Mais le ski, ça charrie
quelque
chose.
Alors, ça tombait extrêmement mal. Le ski, ben, on sait bien que le ski, c'est quand même, ça reste un loisir cher. Bon, peu de Français y vont, je crois, etc.
La 7% Mongie, des Français seulement y vont.
Oui.
93% des Français ne vont jamais au ski.
Voilà. La Mongie, c'est quand même pas Megève. Hein. Oui. Je connais cette station, c'est quand même relativement modeste. Mais bon, formidable. Non, ce que je voulais dire avec ça, c'est qu'il y a la dimension sociale, mais je crois qu'il y a eu aussi quelque chose de l'ordre beaucoup plus reptilien, si j'ose dire, c'est-à-dire qui se voit tout de suite, hein, qui est symbolique. Paris était en feu. Il y avait le feu. Hein. Il y avait le feu. C'était, ça bouillait, c'était chaud, c'était, ça faisait très peur. Et nous avions effectivement un président qui n'était pas dans les mêmes couleurs. Hein. Le feu, c'est rouge et noir. Et lui, il était, comme d'habitude, blanc et bleu, parce qu'il a les yeux bleus, parce que sa femme a un...
Et puis le décor immaculé,
bon,
la neige.
Et la neige, exactement. La neige et le feu, c'est contradictoire sur un plan purement visuel et symbolique. Donc c'était une sorte de mauvais, soit de maladresse, je ne suis pas dans le secret des communicants, soit à tout le moins ben quelque chose qui visuellement était très problématique.
De ce que je sais, c'était involontaire. Je crois que c'était un photographe de l'AFP, mais ça, ça doit être confirmé, qui passait par là et qui a pris la photo. Et puis il y a aussi autre chose, il y a une photo qui a beaucoup fait bondir. On voit le président Macron en train de se servir, il est à table, un restaurant d'altitude, il est en train de servir du vin et en plus avec un magnum de ce qui semble être du Bordeaux, Hugo Travers.
Une photo qui effectivement a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux et juste pour faire le point là-dessus, c'est effectivement une photo alors avec Emmanuel Macron, mais qui remonte à novembre 2017. Donc ce n'est absolument pas d'il y a quelques jours. C'est juste une petite précision, mais qui me semble importante sur ces éléments.
Justement, l'opposition, ou justement, je ne sais pas pourquoi je dis ça, il se trouve que l'opposition s'est engouffrée dans la brèche. Et je voudrais qu'on entende la réaction du porte-parole des Républicains. Il s'appelle Gilles Platret. Il ne s'arrête pas seulement à l'exemple du ski.
Lorsqu'on a un pays dans une tension extrême, dont on sait que week-end après week-end, des bandes organisées qui n'ont rien à voir avec le fond de la revendication populaire sont prêtes à prendre d'assaut tous les symboles de la République, les symboles de l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, eh bien, on ne devrait pas avoir un président de la République qui va au sport d'hiver et un ministre de l'Intérieur qui va draguer en boîte.
Un ministre de l'Intérieur qui drague en boîte, Marie-Ève Malouine. Est-ce qu'on n'a pas franchi une limite là ?
Moi, je fais partie des rares personnes qui disent si le ministre de l'Intérieur veut décompresser, il est dans une soirée où il y a beaucoup de monde, mais qui est quand même privé.
Ah non, je parlais pas du ministre. Moi, je parlais de l'argument des Républicains.
Ah oui, mais je
est-ce qu'on n'a pas franchi une limite dans cet argument ? C'était ça le sens de ma question. Moi, je suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points de morale.
Va un peu loin, mais justement, je trouve qu'il y a dans la polémique, même l'opposition, il y a suffisamment d'arguments pour pas aller chercher cela. Autant le président de la République qui fait le choix d'aller dans une station de ski, c'est un choix qui doit être réfléchi. Autant le ministre de l'Intérieur qui décompresse dans une boîte en buvant un peu trop, ce qui arrive à tout le monde, c'est pas du même registre à mon avis. Et je pense qu'il s'est passé suffisamment de choses pour qu'il y ait matière pour avoir un débat politique sur des arguments politiques fondés et qui soient pas aussi bas que ça.
La chose qui a beaucoup choqué, je vais faire l'avocat de la partie adverse, qui a beaucoup choqué, c'est pas tant que le président, que le ministre de l'Intérieur avait bu, parce que ça arrive à plein de gens, y compris parfois sur les ronds-points, on a même vu dans les reportages, c'était un samedi soir de jour de gilets jaunes. Et c'est ça qui a choqué, vous qui aimez vous attacher aux signes, c'est ça qui a choqué Mariette Darrigrand.
Oui, c'est ça. Écoutez, on a eu 5-6 semaines de débats, je ne sais plus, où des choses ont été dites. Il y a eu quand même justement du langage, de la pensée, etc.
8 semaines.
Et puis là, c'est comme si cet épisode qui était un travail démocratique, eh ben, était complètement annulé. On se retrouve comme en décembre et je trouve que Marie-Ève Malouine a raison de dire il n'y a pas d'objet, on ne sait pas pourquoi. Donc, qu'est-ce qui reste dans ces cas-là ? C'est qu'il y a une théâtralisation générale. Et la théâtralisation, eh ben, on sait ce que c'est. C'est-à-dire, c'est des dualismes. Le bien, le mal, le rouge, le bleu, le blanc, des trucs comme ça. Donc, vous avez, si vous voulez, là, l'ordre moral banal, idiot, qui revient en force. Et puis, on a celui qui devrait être le guerrier, hein, quel que soit qui est en train de faire la fête ou d'aller au sport d'hiver, alors même que Paris est en train de brûler. Mais c'est du théâtre.
C'est du théâtre, c'est aussi de la communication, Hugo Travers.
Non, oui, sur ces deux points, moi, le fait qu'Emmanuel Macron prenne 2 jours de repos après les épisodes des Gilets jaunes, après le grand débat qui s'est terminé ce vendredi, ça me choque absolument pas. Et en l'occurrence, c'est pas choquant, je pense personnellement. Et au-delà de ça, sur Christophe Castaner, je pense qu'il y a par contre, moi, quelque chose qui je pense, peut inquiéter. Alors, le ministère de l'Intérieur a répondu, mais qui est la question de la sécurité, d'être dans un lieu en état d'ivresse potentiellement, etc., qui est quand même une question qu'on peut se poser. Mais au-delà de ça, le plus important,
la question était, est-ce qu'il était avec ou non son officier de sécurité, et si ça tournait mal, s'il y avait une bagarre. Marie n'est pas d'accord. Hugo termine, après je donne la parole à Marie-Ève.
Il ne dort pas avec un garde du corps dans sa chambre non plus. Il faut arrêter. Il y a un moment où il a sa vie. Quoi.
Oui, mais chez soi, c'est un espace
oui,
privé.
Oui, mais quand il va dîner
une boîte
chez
de
des
nuit.
Amis, mais au départ, il est invité dans un, anniversaire. Et après, ça dérape. Ce n'est pas quelque chose qui a été réfléchi et prévu.
Bah, c'est peut-être ça qui est étonnant, c'est ce que disait Hugo Travers, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'une boîte de nuit, c'est quand même un endroit public, ou est-ce que je dis une chose fausse ?
Non, c'était un anniversaire, c'était une réception.
Oui, mais s'il y a 50 personnes avec des shots de vodka qui tournent, la frontière entre le privé et le public est limite. C'était ça la question.
C'est ça, et puis il y a une question de responsabilité, et puis au-delà de ça, y a, évidemment, c'est le sujet, la question de la communication. Le message, alors, la soirée n'était pas censée être révélée, il n'était pas censé avoir tout ça, mais en termes d'image, l'accumulation de petits éléments qui, encore une fois, Emmanuel Macron qui prend 2 jours de repos, ça me choque absolument pas, mais l'accumulation de ces éléments fait que pour beaucoup de gens, il y a une sorte de décalage parce que week-end de violence qui pouvait être, on en a parlé en début d'émission, quand même relativement prévisible, plus fin du grand débat qui donne une sorte de contraste entre ce qu'on a vu hier et juste ce qui s'est passé.
Je vais défendre Hugo, éléments. Il y a une sorte de doxa qui fait que depuis quelques années, les ministres, qu'on le veuille ou non, on a tous le droit d'aller à l'étranger, et bien les ministres prennent leurs vacances en France parce que c'est de la communication.
Et encore s'ils en prennent.
S'ils en prennent. Et Mariette.
Il y a la question aussi quand même de ces photos. Parce que les photos ne sont pas tout le temps diffusées. Il paraît que les Voici, etc., ont des photos qui ne diffusent pas. Alors là, tout d'un coup, c'est sorti. Bon, je pense qu'il y a aussi là des questions qui sont très prosaïques et qui sont. Il faudrait s'interroger sur l'intentionnalité à ce moment-là de faire sortir une photo à tel moment.
Ça montre l'affaiblissement aussi du pouvoir, le fait que des photos du ministre de l'Intérieur dans cette situation peuvent sortir. Déjà, il y a les gens qui prennent les photos et qui les diffusent après, puisque. Moi, j'invite des gens, ils font ça, je ne serais pas forcément contente. Ouais. Et donc là, on sent qu'il y a aussi un tabou qui est en train de tomber et un sentiment aussi qu'on peut se le permettre parce que le pouvoir est affaibli.
On va parler de la gauche, on va parler de l'extrême droite. Tout de suite après ça, on reste dans notre débat. Vous avez bien fait de choisir Europe 1.
19h46, suite et fin de notre grand débat d'actu sur Europe 1 avec vous Philippe Vandel et vos invités. Mariette Darigrand, sémiologue, Marie-Ève Malouine, éditorialiste politique et Hugo Travers, le youtubeur, sa chaîne s'appelle Hugo Décrypte.
Mais oui, Hugo Travers, vous étiez mardi soir la vedette, vedette américaine, jeudi soir pardon, en direct dans l'émission politique sur France 2 face à Marine Le Pen. Vous avez voulu démontrer les fausses interprétations qu'elle faisait du traité d'Aix-la-Chapelle signé entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Comment ça s'est passé? Et surtout, comment ça s'est passé ensuite? Quelles conséquences sur les réseaux sociaux? Parce que quand on s'attaque au Rassemblement National...
C'était moi déjà un sujet qui me tenait à cœur, quel que soit d'ailleurs l'invité qui était dans l'émission politique, parce que Marine Le Pen n'est malheureusement pas du tout la seule responsable de diffusion de fausses informations, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur et juste c'est quelque chose que je vois déjà sur ma chaîne de fausses informations qui sont véhiculées, de tout un tas de rumeurs, de théories du complot, etc. Et ça me semblait important de lui, au-delà d'ailleurs de la question du traité d'Aix-la-Chapelle, de porter cette question des fausses informations dont on entend beaucoup parler, mais effectivement il faut aussi en parler avec les responsables politiques qui en véhiculent eux-mêmes. Ensuite, après, évidemment, après un passage sur une telle émission, on a forcément des retours sur les réseaux sociaux assez intenses et assez particuliers de militants. C'est violent. Après, c'est pas étonnant. Je suis sur YouTube depuis longtemps. Je m'y étais préparé et voilà, ça fait partie du jeu. C'est triste, mais c'est comme ça.
Vous avez connu ça, Marie-Ève Malouine?
Oui.
Vous faire troller ensuite sur les réseaux sociaux?
Oui, mais c'est à ça qu'on mesure la portée de ce qu'on a pu dire et où quand ça blesse là où ça fait mal et les réactions sont d'autant plus violentes, plus ou moins organisées. Le Rassemblement National. À toutes les garder toutes les méthodes du Front National qui trouve beaucoup.
Mais là aussi quasiment tous les partis politiques ont leur plus ou moins mobilisé, mais leur petit groupe de militants qui sur les réseaux sociaux sont très bons et vont troller un peu toutes les personnes contre eux.
Ça me rappelle une phrase de Sacha Guitry qui disait je ne sais plus qui, il n'est pas assez intelligent pour avoir des ennemis. Alors tout à fait autre chose, plutôt de l'autre côté du spectre, dans 10 semaines sont les européennes. On l'a appris hier, le PS a conclu une alliance avec le mouvement Place Publique de Raphaël Glucksmann et va se ranger sous sa bannière. Pour la première fois de son histoire, le PS ne présentera pas de candidat à une élection majeure. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie-Ève Malouine, puis Mariette?
C'est la suite du lent suicide du Parti Socialiste. Quand vous êtes un parti qui a un candidat, qui est le deuxième, qui arrive à l'Élysée, qui est président de la République, et que vous êtes les premiers à contester sa légitimité, on ne peut pas éviter de penser que c'est une démarche suicidaire. Et là, ils ont commencé à dévaler la pente à ce moment-là et on arrive à la fin de se dire que le Parti Socialiste rejoint Raphaël Glucksmann. C'est pas Raphaël Glucksmann qui rejoint le PS, c'est l'inverse. Et en réalité, c'est le PS qui va payer, hein, puisqu'il faut des financements. Et c'est Raphaël Glucksmann qui va être tête de liste. C'est triste en même temps pour ce grand parti, mais qu'il a un petit peu cherché. C'est vraiment de sa responsabilité. C'est lui qui a commencé ce cheminement qui le mène là.
Marianne Darion.
Oui, moi, ça m'a donné envie de faire du marketing, en fait, puisque c'en est, d'une certaine façon. C'est-à-dire donc, est-ce que c'est une marque encore avec, intéressante,
le Parti Socialiste, le PS.
Ça m'a fait penser ce qui se passe là à quand Nicolas Demorand, qui a beaucoup de talent aussi, Glucksmann aussi, un grand talent, ce sont des gens éduqués, très intelligents, etc., vont se mettre dans des bourbiers quand il avait récupéré Demorand Libération, qui est une marque qui est morte. Malgré le talent,
il y a plein de gens, il y a plein de lecteurs de Libé, plein de journalistes de Libé qui vous écoutent.
Non, mais au sens où c'est une étoile morte, c'est plus possible, c'est plus la même chose. Il faudrait la repenser complètement pour la relancer. C'est merveilleux.
Libération qui a été rachetée par le groupe de Patrick Drahi. Ils vont être contents aussi d'apprendre qu'ils ont acheté un astre mort.
Oui, quand Demorand y va, c'est un astre mort. Et malgré lui, malgré sa brillance, et lui était une marque à ce moment-là, il ne peut pas la remplir. Et là, il me semble qu'elle va faire la même chose, malheureusement pour Glucksmann, parce que. Son initiative est très intéressante. Et lui, il a créé sa marque, Place Publique. Donc, j'ai envie de regarder les choses comme ça. Et j'avoue, je pense que ça ne va pas être une réussite.
Alors, Place Publique, il revendique 28 000 adhérents. Ce n'est pas non plus le bout du monde. Hein. C'est rien. Ouais. C'est même pas un quart de vos followers, Hugo Travers.
Ouais, en même temps, le Parti Socialiste était effectivement, je pense, pour beaucoup de gens, une sorte de coquille vide. Parce que si on regarde les figures du Parti Socialiste il y a encore quelques années, y compris ceux qui ont fait la primaire, tous sont partis, ont créé leur propre mouvement à l'image de Benoît Hamon. D'autres sont partis à l'étranger, comme on le sait. Mais il y a ça. La base militante a forcément beaucoup perdu depuis quelques années du fait du quinquennat de François Hollande et puis là de l'évolution. Donc, c'est une alliance au final qui... En fait, je pense que pour beaucoup de gens, le Parti Socialiste ne représente pas forcément grand-chose aujourd'hui parce qu'on rattache le Parti Socialiste à des figures qui, aujourd'hui, ne sont plus là. Donc, il y a une sorte de difficulté. Donc, c'est un nom qui rattache, d'ailleurs, qui ne renvoie pas forcément une très bonne chose parce qu'encore une fois, le quinquennat de François Hollande n'a pas forcément été très bien vu par tout le monde. Donc, j'ai quelques doutes sur pourquoi cette alliance a été faite avec Place Publique.
Ah bah tiens. Alors pourquoi l'alliance? D'abord parce qu'ils étaient d'accord, mais pourquoi le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, n'a pas voulu être candidat lui-même? Écoutez, il a répondu à cette question ce matin, c'était au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Écoutez Olivier Faure.
J'aurais pu être ce candidat, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix qui a été approuvé très largement par le Conseil national du Parti Socialiste? Parce que tout simplement, il faut changer. Nous avons fait 6% à l'élection présidentielle. La question maintenant, c'est de savoir si on continue à considérer qu'on fait comme avant, ou est-ce qu'on cherche au contraire à s'ouvrir à nouveau à d'autres. On nous a tellement reproché d'être repliés sur nous-mêmes. Eh bien, moi je souhaite au contraire faire l'inverse. La question à chaque fois, c'est que tout le monde dit « je suis pour le rassemblement », mais derrière moi. Et donc, ça fait que le rassemblement, il n'a jamais lieu.
En dehors du fait qu'il donne l'impression d'avoir le moral dans les chaussettes, est-ce qu'il refuse l'obstacle, Marie-Ève Malouine, pour ne pas être celui qui aura fait moins de 6% et donc garder son poste?
Je crois que c'est un calcul assez vain d'imaginer qu'il va augmenter le score du Parti Socialiste en s'alliant à Raphaël Glucksmann parmi les électeurs.
Ah, je disais pas ça. Ma question, c'était, est-ce que justement, il pense faire moins et dire ensuite, vous voyez, c'était pas moi? Pour ne pas porter l'échec, ou est-ce que je suis totalement cynique avec cette question?
Non, je crois aussi qu'il y a une question de cumul des mandats. Il sait que si les candidats, on va lui demander s'il va quitter l'Assemblée et il n'a pas envie de quitter l'Assemblée. Il y a une nécessité aussi de faire parler, d'apporter quelque chose qui fasse parler, et donc Raphaël Glucksmann, ça le fait. Mais en même temps, je pense que par rapport à ce que disait Hugo Travers, le PS, c'est quand même beaucoup d'élus locaux, c'est beaucoup de gens qui travaillent sur le terrain, et ceux-là, ils ne sont pas du tout parmi les gens qu'on entend et qui sont mis en valeur par le parti au niveau national. Et pour cette liste
mais
aux européennes.
C'est déjà moins le cas que depuis le début, enfin depuis 2012, ça a quand même fortement évolué. Et déjà, le quinquennat a aussi marqué en termes de base militante, en termes d'élus locaux. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, ça...
Non, les élus locaux, ils sont toujours élus, ils sont toujours là. Ils se referment petit à petit, de plus en plus.
Je parle surtout des militants.
Et les militants, ils restent sympathisants, ils vont aller voter éventuellement au PS, mais là je crois qu'il y a beaucoup de militants PS qui ne vont pas voter pour Raphaël Glucksmann et qui vont s'abstenir.
Ah mais non, déjà Raphaël Glucksmann a un peu de mal à rassembler en son propre camp, parce que les difficultés ne font que commencer, donc je vais raconter. Le trio fondateur de Place Publique, c'était donc Raphaël Glucksmann, l'écologiste Claire Nouvian et l'économiste Thomas Porcher. On vient d'apprendre dans le JDD ce matin que Thomas Porcher a déjà décidé de partir. Ils étaient trois, ils sont plus que deux, Mariette Darigrand.
Oui, c'est la question justement d'aller vers le PS.
qui, je crois, hein, c'est là-dessus que ça a chopé. Non, c'est par rapport au PS, la situation politique, le contexte, c'est tellement radicalisé que je crois aujourd'hui, ce que montre cette aventure-là, est-ce que malheureusement, je pense, l'échec de cet attelage va montrer, c'est qu'il n'y a pas d'espace politique pour ça. C'est-à-dire pour la gauche un peu traditionnelle ou qui reviendrait à ses fondamentaux de débat citoyen, etc. On va voir, hein. Mais c'est pas comme ça. C'est aujourd'hui, ce qui est fort, c'est la radicalisation. Et donc, voilà, il faut être radical. Démocrate à la Macron éventuellement, mais pour l'instant c'est un peu... Ouais, voilà, on va voir.
Donc en début de débat, je posais la question, la gauche est-elle foutue? Votre réponse est oui. Merci beaucoup Mariette Darrigrand d'avoir été avec nous. Non. Merci Marie-Ève Malouine, merci Hugo Travers. On peut vous voir sur votre chaîne YouTube, elle s'appelle Hugo Décrypte. Je ne donne pas vos autres chaînes, mesdemoiselles, puisque vous n'en avez pas, et moi non plus. Merci d'avoir été avec nous.
Europe 1.
Et dans un instant sur Europe 1, vous allez retrouver Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Salut Lionel.
Salut
et
Philippe.
Là, il y a vraiment là aussi du grain à moudre.
Ah exactement, du grain à moudre avec le classique ce soir, 100% classique Paris Saint-Germain-Marseille, le match en intégralité, les débats avec nos experts bien sûr et la grande question.
Et alors Balotelli. Oui, alors il n'a pas pris l'avion hier, il a pris l'avion aujourd'hui.
Il a pris l'avion aujourd'hui.
Mais il est à Paris.
Il est au parc même.
Il est au parc, mais on ne sait pas s'il va jouer. Quel est l'intérêt de venir à Paris si c'est pour voir le match à la télé? Vous allez nous dire ça.
Tu peux le voir en tribune.
Hein? Donc, tu restais à Marseille et tu avais un meilleur bilan carbone.
Ça, c'est clair.
On vous écoute, Lionel. Nous, on se retrouve samedi prochain à 18h. Salut Marlène.
Salut Philippe.
Bonne soirée, je vais arriver à le dire. Bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao.